Salut à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Je suis Yakuba Ouedraogo et nous émettons aujourd'hui à partir du studio 12 de la Voix de l'Amérique à la réalisation ce soir Sims Lumami. Eh bien, vous l'avez reconnu, nous parlons de Basketball Africa League avec la dernière journée des matchs de la Conférence du Nil, commencée le 19 avril à la salle Hassan Mustapha du Caire et qui prennent ça donc ce soir. Le dernier match va opposer tout à l'heure Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine à Al Ahly d'Égypte, champion en titre. Avec moi, comme d'habitude, mon collègue et ancien basketteur, cette fois-ci au téléphone, pas en studio ici. Cheikh Tiro, bonsoir.
Bonsoir Yakuba, bonsoir à tous les spectateurs de la VOA.
Ben écoute, tu m'as lâché aujourd'hui là.
Non, même pas Yakuba.
Tu m'as physiquement lâché.
Non, même pas. Je suis toujours de cœur avec toi là-bas et puis avec le Basketball Africa League. Tu sais, le sport, c'est dans le sang. Et
alors qu'aujourd'hui, j'avais porté mon t-shirt Basketball for Her.
Ah bon?
Je croyais que tu allais le voir.
Ouais, bon, moi aussi, j'avais porté mon t-shirt de NBA Basketball Africa League que nous avons.
Ah, tu vois?
Au Rwanda là-bas.
Au Rwanda l'année dernière.
Oui, absolument.
En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous au téléphone. C'est toujours ouais. Pareil, hein, en même temps qu'au studio ici. En tout cas, merci une fois de plus de nous faire l'amitié d'être avec nous. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Je le disais, le dernier match de cette conférence Nil oppose ce soir à la Ligue d'Égypte, champion en titre et pour le moment premier au classement avec 4 victoires en 5 matchs à Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine. 5 matchs, 3 victoires et juste avant Cheikh, il y a un gros coup qui s'est passé dans le match d'avant parce que Al Ahly de la Libye a gagné 110 à 78 devant City Oilers et du coup Al Ahly de la Libye se repositionne hein, à la deuxième place en attendant l'issue de la rencontre de tout à l'heure entre Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine et Al Ahly d'Égypte. Déjà, Cheikh, quelle appréciation tu fais de cette performance des Libyens?
Bon, Yakuba, moi je vois que cette équipe libyenne est venue très bien prêt aussi, comme nous avons vu. Cette année, c'était leur première fois Yakuba, mais on voit décidément que c'est eux qui vont se qualifier avec Al Ahly.
C'est pas sûr, hein?
C'est eux qui vont se qualifier avec Al Ahly.
Tu donnes les Centrafricains perdants?
Bon, je ne vois pas les Centrafricains perdants. Même s'ils gagnent ce match-là, ça va être un peu
non,
difficile.
S'ils gagnent, ils passent devant Al Ahly de la Libye, parce que les Centrafricains ont 5 matchs, 3 victoires actuellement. Les Libyens ont 6 matchs, 3 victoires. Et donc, si les Centrafricains gagnent, ils auront 6 matchs, 4 victoires et ils finissent deuxième.
Waouh, ok, yeah. Mais ça va être très difficile quand même de gagner cette équipe Al Ahly. Déjà qu'ils ont perdu un match contre les City Oilers, Yakuba. Il y a tellement d'équipes, tellement de belles équipes dans ce tournoi. On a vu que les derniers du pool étaient arrivés à gagner le meilleur du pool. Ça veut dire qu'il y a le talent toujours dans ce tournoi.
Si City Oilers a pu battre Al Ahly d'Égypte, ça veut dire que Bangui SC aussi peut battre Al Ahly d'Égypte.
Absolument, je suis totalement d'accord sur ça, et puis s'ils font l'effort aujourd'hui, peut-être, ça va être difficile Yakuba, parce qu'Al Ahly vient de gagner un match aujourd'hui contre le City Oilers qui les a mis dans une position d'être vraiment au deuxième position avec combien de points d'écart Yakuba, comme tu l'as dit, c'est presque 30 points d'écart,
donc ça veut dire que...
30 points d'écart. Donc, s'il y a le goal-average entre les deux équipes, je pense que Al Ahly Sporting Club de Libye va passer. Mais aussi à voir comment est-ce que les Bangui Sporting Club vont gagner cette match contre Al Ahly Sporting Club de l'Égypte.
Pour le mieux qu'on peut dire, c'est qu'on s'attend à une grande rencontre, une grosse rencontre, hein, parce que vous savez, les Égyptiens évoluent à domicile, je le disais, au complexe sportif Hassan Mustapha du Caire. Ils ne veulent pas perdre leur dernier match devant leur public. Et donc, c'est un gros match en vue parce que la République centrafricaine aussi a compris. S'ils gagnent ce soir face à la Ligue d'Égypte, eh bien, ils finissent deuxième et ils sont directement qualifiés pour les playoffs. Par contre, s'ils perdent ce soir, eh bien, ça sera un peu difficile hein, pour les playoffs parce que vous connaissez la règle. Ce sont les deux premiers qui se qualifient directement pour les playoffs. Et ensuite, les deux meilleurs troisièmes de l'ensemble des trois conférences réunies sont, je vais dire, repêchés hein, pour les playoffs qui auront lieu à Kigali du 24 mai au 1er juin. Et donc, la difficulté, c'est que dès lors que la conférence finit de jouer, on annule tous les matchs que chaque équipe a joué contre le dernier. Alors que Bangui Sporting Club a pris ses deux victoires contre City Oilers, avant d'arracher une victoire, bien sûr, contre Al-Ahly de la Libye. Donc, si ça reste comme ça, à la fin, eh bien, Bangui Sporting Club, même pour être repêché meilleur troisième, on ne pourra considérer que la seule victoire, qu'ils ont remporté contre les Libyens de Al Ahly.
Absolument.
On n'en est pas encore là. Eh bien, tout à l'heure, dans 25 minutes exactement, les choses vont commencer du côté du complexe sportif Hassan Mustapha du Kem. En attendant, Cheikh, on est dans l'avant-match. Le match précédent, les Centrafricains ont joué sans Evans Ganapamo. Et ça a marché, tout de même. On espère le voir ce soir.
Bon, absolument, Yacouba. Tu sais, comme on a dit, ces matchs-là que nous allons jouer, tous ces matchs-là, il faut aller avec tout ce que tu as. Tu dis que Ganapamo n'a pas pu jouer,
après ça, il avait une douleur à la cheville, il n'a pas pu jouer le match.
Nous avons tous vu vraiment son point sur le terrain parce qu'ils ont perdu par 30 points. Et je pense que si Ganapamo était là, et c'est une grande force dans l'équipe City Oilers, ben, à ne pas oublier qu'ils ont des commandes qui a été un des leaders de cette équipe depuis le début à l'âge de 17 ans. Et ils ont aussi pas mal de joueurs, Yacouba. Comme on a dit, Yacouba, l'équipe doit jouer même sans leur titulaire. Même ils pouvaient jouer sans Miller aujourd'hui ou bien Malouache. Et tout peut se passer dans le sport. Mais malheureusement, s'ils ont un grand pièce qui leur manque, ça les a coûté très cher quand même parce que c'était un match qui pouvait vraiment se lancer.
Cheikh, je te donne un chiffre. Dans le match précédent, celui qui s'est joué juste avant, tout à l'heure, avant qu'on en arrive à là, eh bien, à la Ligue de la Libye, je le disais, a gagné 110 à 78. Et tiens-toi bien, l'UOL, comme on le dit, accueille le Sud-Soudanais de l'équipe libyenne, a inscrit 42 points.
Ouais.
42 points. Ça, c'est à la Stoglin, hein.
Ouais, c'est ça la Stoglin, Yacouba. Comme je t'avais dit, les nouvelles équipes sont bien dans ce tournoi très très préparé. Il a marqué 46, c'est un forward qui a marqué 42 points dans le tour du match. Il a fait 11 rebonds et puis un assist. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un pivot qui est là, qui peut marquer. Donc moi je suis pas étonné quand même, comme je t'avais dit, Yacouba, les nouvelles équipes, ils sont venus très très bien préparés. C'est le cas de Al Ahly Sporting Club, qu'ils ont fait des recrutements conformément à tout ce qu'ils ont vu depuis la première saison jusqu'à maintenant. Ils ont des talents aussi, Yacouba. Nous avons vu avec eux et Kevin Marquis Murphy, et qui a aussi ajouté 21 points sur ça. En général, Yacouba, ça, ce n'est même pas les joueurs qui ont commencé le match avec. Ça, c'est quelques joueurs de banque qui sont venus. C'est Louol seulement qui était le titulaire parmi les leaders de ce point-là. Il y avait Kevin Marquis Murphy qui n'avait pas commencé le match. Et il y avait Moulouku Suleiman Diabaté qui n'a pas commencé le match, qui a 14 points aussi. Donc Yacouba, tu vois vraiment qu'ils ont commencé avec Hassan Madian et puis Adres Mansou, et tous ils ont 0 points. Ils ont commencé avec aussi Asmaël Aboubakar Abrahim, 0 points. Toutes les joueurs qu'ils ont. Ça veut dire que cette équipe a une bande très profonde, Yacouba. Et comme notre collègue Malik nous avait dit au début, ils ont une bande très profonde, Yacouba. La plupart des points aujourd'hui, ça vient du banc. Madjok Mokardeng, qui a ajouté 18 points aujourd'hui, et puis Solo qui a ajouté 14 points. Et tous, ils sont venus du banc, à part Louol, qui a 42 points, qui a commencé le match, Yacouba. Donc, c'est une équipe qui était très bien préparée, et puis ils ont un banc, et puis ils ont un commandeur qui font le travail.
En tout cas, c'est tout bénéf pour cette équipe libyenne, on va le rappeler, qui est à sa première participation dans cette Basketball Africa League. On le disait tout comme les Centrafricains du Bangui Sporting Club, première participation également. Mais ce sont des équipes qui font fort. On se rappelle aussi de ce qui s'est passé dans la conférence Kalahari avec Fus de Rabat qui a fini premier de cette conférence-là, alors que cette équipe marocaine justement était à sa toute première participation. C'est donc dire que avoir 2, 3, 4 participations dans la Basketball Africa League ne compte plus. Il faut avoir des éléments pour, il faut avoir la motivation nécessaire. Échec, tu as relevé un aspect très important dans ce jeu-là, c'est le banc. Le banc parce que ça se joue depuis le 19 avril, aujourd'hui c'est le 27 et donc en gros une dizaine de jours. On ne peut pas utiliser les mêmes 5 majeurs à tout moment. Il faut avoir un banc capable de suppléer lorsque justement les 5 majeurs n'y arrivent pas.
Absolument, nous n'avons pas vu le cas, c'est pas le cas avec les City Oilers, Yacouba. Comme tu as dit, ils ont perdu Ganapamo et le match s'était foutu.
Ganapamo, on rappelle les jeux pour Bangui.
Ouais, tu parles de Ganapamo.
Oui, Evans Ganapamo qui joue pour Bangui.
Je voulais savoir, qui même n'a pas joué aujourd'hui avec cette équipe City Oilers aujourd'hui?
City Oilers avec tous ces éléments. C'est Bangui qui a joué son précédent match, je crois avant-hier, sans Ganapamo.
Avant Ganapamo, ok.
Oui, et qui a battu à la Ligue de la Libye.
Voilà, donc ça va dans la même chose. Nous avons vu que même aujourd'hui, le City Hall, le coach a essayé de jouer les bancs. Il a essayé de jouer les bancs. Et je pense que Malouas est venu devant aujourd'hui aussi. Et ouais. Ils ont commencé avec Faye Ballet, James Okello, Evan Mukwai, Tony Druleba et Tutis Odeke. Ils ont commencé avec eux aujourd'hui, mais ils n'ont pas beaucoup bien joué. Mais ça veut dire qu'ils ont utilisé le banc un peu aujourd'hui. Ben, à vous rappeler, Yacouba, que Malouas, il était venu du banc aujourd'hui. On n'a pas fait commencer le match aujourd'hui, peut-être à cause des décisions du coach. Mais en tout cas, on voit quand même que Yacouba, comme tu l'as bel et bien dit, le banc là, ça va être l'atout de l'équipe. Parce que si tu as les 5 majeurs qui jouent et puis qu'il y a un problème avec un joueur, ou bien au 4e quart-temps, tu as besoin de donner le souffle, il faut que quelqu'un, le banc tient l'adversaire qui sur le terrain avant que les autres prennent le souffle pour revenir sur le terrain. C'est très important, Yacouba. Cette équipe, si je vais parler aussi un peu de cette équipe de Bangui Sport, Yacouba.
Oui,
cette équipe de Bangui Sport a déjà. Ils sont déjà mis dans une position de vraiment gagner aujourd'hui parce que. Et ils savent bien que l'équipe d'Arvès qui vont jouer, c'est les champions en titre de l'année passée, Yacouba. Et puis, c'est les victoires, ils ont gagné à l'aller. Le premier match, c'est dans ce tournant-là. Je ne sais pas si tu as vu le match avec Bangui et Al-Ali, et que le tournant, je pense que le tournant s'est commencé avec ce match-là.
Bangui avait joué contre Al-Ali de la Libye.
Ils ont joué le 22 avril. Ils avaient perdu contre Al-Ahli Sporting Club d'Égypte à 85-79. Donc c'est une opportunité, Yacouba, de vraiment se venger à cette équipe. Et puis nous avons vu que le Bangui Sporting Club a un joueur qui vient de se déclarer pour la NBA, Yacouba, Darlene.
Oui.
Qui vient, d'ailleurs, je viens de voir ça hier, qui s'est déclaré
Darlan.
Pour le draft.
Yeah.
Voilà. Il y a Darlene qui vient de se déclarer pour le draft de NBA 2024 cette année, Yacouba, qui va se tenir en juin.
Darlene qui a joué la J-League ici, avant de repartir. Donc, je pense que c'est Evan plutôt qui a joué la J-League. Non, c'est Darlan, bien sûr, qui a joué la J-League.
C'est Darlan qui a joué la J-League avec les J-League Ignite.
Justement.
Et c'est lui qui vient juste de déclarer Thierry. Je ne sais pas si c'est Thierry Darlan.
Oui, c'est bien ça, Thierry Darlan.
Voilà, le pivot qui mène très bien avec l'équipe de Bangui, Yacouba. Ça veut dire qu'il s'est déclaré pour la NBA, donc il faut voir. La NBA doit voir maintenant, parce que Yacouba, quand il déclare pour la NBA, les scouts et les équipes de NBA sont tous en train de regarder tes vidéos depuis 4 ans.
Et aujourd'hui, ils ont l'occasion de regarder ton match en direct.
Son match en direct aujourd'hui aussi. Donc, ça va être un match très important pour lui, vu qu'il vient de se déclarer hier soir. Donc, ça va être un grand atout pour les scouts de regarder ce match-là, Yacouba, que nous allons parler.
En tout cas, un match qu'on attend vivement, c'est dans 17 minutes exactement pour le coup d'envoi de cette rencontre, la dernière de la conférence du Nil entre Al-Ahli d'Égypte, champion en titre, je le rappelle, et Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine, qui est à sa toute première participation. Bangui qui a besoin d'une victoire ce soir pour s'assurer la deuxième place de cette conférence du Nil et donc s'assurer en même temps une place en play-off du côté de Kigali. C'est à la fin du mois de mai, du 24 mai au 1er juin prochain, et donc 2024, En attendant, nous ne sommes pas encore à ces play-offs-là. Eh bien, nous sommes dans cette dernière rencontre qui va se disputer tout à l'heure. Jusqu'à présent, la salle Hassan Mustapha du Caire n'est pas encore pleine. Mais on espère avoir du beau monde dans cette magnifique salle-là pour boucler la boucle, comme on le dit dans notre jargon. Check, ça fait pratiquement 10 jours, je le disais, que les matchs de cette conférence du Nil se disputent. On va comparer quand même légèrement par rapport à ce qui s'est passé du côté de la conférence à Kalahari en Afrique du Sud. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup plus de suspense et de spectacle ici par rapport à ce qui s'est passé du côté de Pretoria?
Bon, Yacouba, le côté de Pretoria, c'était impressionnant, Yacou. C'était très bien impressionnant pour une première fois et nous avons vu beaucoup de mobilisation et des fans du basket de Sud-Afrique. Mais à vous rappeler, Yacouba, les conférences Nil au Caire, ça faisait partie depuis la deuxième saison, parce que nous avons vu que la saison première, ça a pris avec au Sénégal à cause du Covid. La deuxième saison, ça a commencé avec le Caire était là-bas, le Caire était là-bas à la conférence de Nil. Donc ça veut dire qu'ils ont une tradition, Yacouba. Et nous avons vu beaucoup d'améliorations chez eux. Nous avons vu des grands barons de business, Yacouba, qui ont investi beaucoup d'argent pour le développement du sport en Égypte. Et nous avons des compagnies qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont signé des gros partenariats avec la Basketball Africa League en Égypte. Ça veut dire que les Égyptiens sont très bien intéressés, Yacouba, à cette Basketball Africa League. À te rappeler que Yacouba, ils ont rapporté deux championships de ce tournoi depuis que ça a commencé avec les Zamalek et puis avec les Al-Ahli, et puis ils sont toujours là toutes les années. Donc ça veut dire que l'Égypte quand même amène le footprint pour le Basketball Africa League. Bon, moi quand même je pense que Yacouba et Al-Ahli, les gens vont sortir pour venir assister le match derrière pour son pays, mais quel que soit qu'il perd ou gagne, Yacouba, ils sont déjà qualifiés. Donc ça a dit que même si la tribune ne s'est pas remplie, cette équipe vraiment à faire ce qu'il devait faire pour devant son public égyptien, Yacouba.
Merci beaucoup, cher Katiéo. Si vous venez de nous prendre un match, eh bien vous suivez l'avant-match entre Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine et à la Ligue d'Égypte. Nous parlons du Basketball Africa League avec les dernières, en continuant le dernier match de cette conférence du Nil. Sims à la réalisation, nous marquons une courte pause de quelques secondes et on revient tout de suite. Merci à vous qui venez de nous prendre un match. Eh bien, nous sommes dans l'avant-match des rencontres, disons, de la conférence du Nil. Nous parlons du Basketball Africa League. Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine à la Ligue d'Égypte. C'est tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, avec moi, ici au téléphone, bien sûr, à Washington DC, Cheikh Thiro. Merci en tout cas, Cheikh, de nous faire l'amitié. Une fois de plus, merci d'être là. Alors, Cheikh, on va parler d'individualité. Parlant de cette équipe de City Oilers et de l'équipe de Bangui Sporting Club, on a vu, ce sont des équipes qui sont tenues, je vais le dire comme ça, par des jeunes. Malouache, 17 ans à peine, et qui est leader de cette équipe de City Oilers là. Et du côté de Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine, on a un garçon comme Evans Ganapamo, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Thierry Darlan, tous des garçons de moins de 20 ans, mais qui tiennent ces équipes là. Qu'est-ce que tu penses justement de ce leadership de jeunes enfants, excusez-moi de l'expression bien sûr, dans ces différentes formations là?
Yacouba, ça montre que le futur du basket, c'est les jeunes, c'est la jeunesse, Yacouba. Et c'est la seule réponse à ça, Yacouba. La jeunesse, ou bien le futur du basketball africain, c'est la jeunesse. Nous avons vu, comme regardant même le match d'NBA, Yacouba, nous avons vu que même cette année, les Golden State Warriors se sont éliminés pour la première fois dans beaucoup d'années. Et les Lakers sont de 0 à 3 contre les Denver Nuggets. Et puis il y a aussi l'équipe de Kevin Durant qui est 0 à 2 contre l'équipe de Minnesota. Ça veut dire que Yacouba, le futur est là. Et les gens pensent que c'est la fin d'un era. Un era, comment on dit ça en français même là. C'est la fin d'une dynastie de joueurs. Et c'est la jeunesse qui vient, Yacouba. On voit la même chose avec l'Afrique dans ce tournoi à travers ces jeunes gens que tu viens juste de mentionner. Malouache et puis Darlene et plein d'autres jeunes filles, jeunes garçons, Yacouba, qui sont dans les équipes. Voilà, dans les bols élevés, c'est eux qui sont le futur de ce tournoi, Yacouba, parce que les grands vont partir, Yacouba. Les grands gaillards et puis les vétérans vont partir. Le bâton va être remis à ces jeunes gens, Yacouba, de vraiment représenter l'Afrique au haut niveau.
Et justement, toujours dans cette même lancée, on a vu qu'au début, par exemple, de la compétition, je parle bien sûr de la Basketball Africa League, lors de la première et de la deuxième édition, les équipes étaient beaucoup, beaucoup portées par des Américains. On a vu ce que Dan Anthony Miller Jr. a fait avec Slack, on a vu ce que Stoglin, par exemple, a fait avec la formation marocaine. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des garçons au niveau local. Je pense, par exemple, à Rolly Fula, bien sûr, de Bangui Sporting Club, qui porte l'équipe alors qu'il ne joue que dans le championnat centrafricain. On a ces garçons qui évoluent aussi en J-League ici. Mais de plus en plus, les équipes-là ne sont plus portées par des Américains, mais plutôt, excusez-moi l'expression une fois de plus, par des Africains purs.
Absolument, Yacouba. C'est le cas d'ailleurs dans toutes les équipes, toutes les leaders. Solo Diabaté, on a vu une interview avec lui. Yacouba, nous avons tous vu que c'est un joueur qui a évolué à l'international. Il a dit à travers les interviews que jouer avec l'Afrique, c'est le plus gros il sentait mieux que jouer en Europe parce que l'Afrique n'avait jamais une opportunité pour lui de venir vraiment jouer devant son public en Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs on le voit, il est partout, les équipes Yacouba, il a été avec US Monastir, il a été avec beaucoup d'équipes au cours de ce tournoi. Bon, ça c'est des joueurs comme ça, Yacouba, qui montrent le talent de l'Afrique, plus les jeunes joueurs qui vient juste de mentionner. Et quand nous allons aussi Yacouba, dans l'équipe Al-Ahly, que nous avons oublié de même parler Yacouba. L'année passée, j'avais un jeune du Soudanais qui s'appelle Nouni. Et Nouni, nous tous, on le connaissait comment il jouait l'année passée, Yacouba. Mais Nouni n'est pas avec eux cette année, mais ils ont remplacé Nouni avec des joueurs qui peuvent faire exactement ce que Nouni fait. Le cas, il y a un qui s'appelle Luol. Je pense qu'il est du Soudan aussi.
Oui, c'est un Sud-Soudanais.
Donc, c'est un remplaçant de Nouni dans leur équipe.
Il y a Luol, il y a Deng aussi qui joue avec les Al-Ahly.
Absolument. Et puis, il a marqué 26 points le match dernier contre l'équipe Al-Ahly de Libye. Donc, ça veut dire que Yacouba et tous ces joueurs-là, ce n'est pas des Américains, c'est des joueurs qui sont d'origine de l'Afrique, Yacouba, qui compétit au haut niveau. Et toutes les leaders de cette année, Yacouba, je vois seulement que des Africains d'origine là-bas, Yacouba. Donc, ça veut dire que l'équipe est là, Yacouba. L'équipe est là, et puis le talent est là en Afrique, comme coach, d'après coach Liz Mills. Et l'équipe, l'Afrique n'a pas besoin d'aller chercher les joueurs ailleurs. Et l'Afrique a tous les joueurs qu'il faut pour exposer leur talent et pour éventuellement décrocher une opportunité au next level.
Alors, parlant justement de décrocher une opportunité au next level et donc au niveau suivant, eh bien, Cheikh, c'est une information que je lis en même temps pour toi. Peut-être que tu la connais ou tu la découvres. Eh bien, on parlait tout à l'heure de Luol Akil Junior, qui est le joueur, bien sûr, d'Al-Ahly de la Libye. Il est le nouveau recordman de points inscrits dans un match de cette Basketball Africa League avec ses 42 points. Le précédent record était co-détenu, disons, par Terrell Stoglin de l'AS Saleh du Maroc à l'époque et Will Perry de Ferroviário de Beira avec 41 points chacun. Et donc, on le disait, Akul marque l'histoire, bien sûr, de cette Basketball Africa League-là avec ses 42 points. Et donc, personne n'a fait mieux jusqu'ici, depuis le début de la compétition en 2020 jusqu'à maintenant.
Ouais, absolument, il a fait le record, il a mis le record, les Américains disent, il set the record, il a mis le record à un niveau plus élevé. Donc, moi, je suis pas quand même surpris, Yacouba, parce que l'Afrique a tellement de talents cachés, Yacouba. Malouache même, il y avait même, j'ai vu sur le ESPN, le site de la NBA, qu'il est 10 fois plus mieux que Joel Embiid à l'âge de 17 ans, Yacouba.
Malouache, ah oui, absolument.
Joel Embiid est venu aux États-Unis à l'âge de 17 ans comme un joueur qui n'avait pas beaucoup de talent. Ouais. Et si tu compares cette année et de Joel Embiid à l'âge de 17 ans et à Malouache, ça veut dire que Malouache est 10 fois plus mieux que Joel Embiid à l'âge de 17 ans. Donc, ça veut dire que son potentiel est très, très immense, Yacouba. Et puis, nous avons vu ça à travers son jeu sur le tournant là, cette année avec son équipe City Oilers, malgré qu'ils sont dans une position difficile de se qualifier, qui est impossible même à ce niveau. Mais il a montré quand même que le talent de la jeunesse africaine est là, à l'âge de 17 ans, Yacouba, contre un niveau de basket élevé. A rappelé, Yacouba, aux gens que depuis que la saison de basketball africain a commencé, Yacouba, la compétition, ça ne fait que augmenter, Yacouba. C'est-à-dire le niveau du match, le niveau du tournoi même, Yacouba, ça ne fait qu'améliorer chaque année. Nous avons vu ça, même le président de la boule a dit ça, que nous avons vu tellement de trucs avec les Marcus l'année passée, Yacouba. C'était très, très compétitif. Ils nous ont fait vivre vraiment l'année passée au play-off, Yacouba. C'était là-bas. Ils nous ont fait vivre la NBA comme au play-off ici, Yacouba. Et les matchs se jouaient à 5 points, 5 secondes, 10 secondes, même à 20 secondes du match. C'était important de vraiment faire quelque chose sur le terrain. Ça veut dire que le niveau de compétition a été très, très élevé. Et de voir un jeune de 17 ans, Yacouba, compétir au haut niveau comme ça et marquer 29 points dans les matchs, marquer 20 points dans les matchs, 19 points. Et c'est vraiment admirable de voir ce genre de talent dans le Basketball Africa League. D'ailleurs, qui va transmettre ça dans les collèges NCAA avec les Duke University de l'année prochaine, Yacouba.
Alors, Cheikh, justement, puisque tu parles bien sûr de tous ces jeunes talents africains-là qui profitent pour le moment de cette Basketball Africa League pour s'exposer, comme on le dit, pour faire voir ce dont ils sont capables. Cheikh, toi, tu es passé par la Basketball Youth Board. Est-ce que si à l'époque vous aviez une compétition comme cette Basketball Africa League, tu te retrouverais ici aux États-Unis?
Mais Yacouba, forcément, parce que tu peux même venir. Notre temps, c'était de vraiment faire les camps. C'était pas une compétition à ce moment, Yacouba. C'était un camp de basket.
Ouais, c'était un camp de basket.
Voilà, c'était un camp de basket. On met les pivots ensemble, on met le meneur ensemble, on vous fait les drills des pivots, on vous fait doubler la balle, on vous montre les formes, comment chuter. Tu vois, mais c'était les fondamentales du basket et puis voir votre potentiel et de vous faire venir dans les high school. En ce moment, c'était les high school parce que l'âge limite de ça, c'était 17, moins 18 ans. Donc maintenant, là, c'est pas ça. Maintenant, là, avec ce bowl, la Cuba, c'est pas ça. Ce bowl-là, tu as la chance même de venir au NBA, si tu, même sans passer par le college. Moi, Maloua, je pouvais déclarer au NBA sans même aller au Duke, Yacouba. Donc, c'est ça l'opportunité de ce basketball africain, parce que tu joues dans une compétition de haut niveau qui est supervisée par la NBA, Yacouba. Et puis, nous avons vu d'ailleurs que la NBA G-League est tellement intéressée à des joueurs venant de ce bowl, Yacouba, pour vraiment venir jouer avec leur équipe ici, au niveau de G-League. Mais quand même, Yacouba, moi, mon temps, si c'était ça, mais nous allons venir seulement direct à la G-League ou bien au NBA. Mais aussi, je suis aussi persuadé que Yacouba, ça a été une opportunité pour nous aussi d'avoir l'éducation. Et l'éducation, c'est très important, Yacouba. Et ça nous a permis aussi de venir en high school ici dans ce pays, et aller à l'université et décrocher nos diplômes de master, tout. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire, quoi. Il y a une étudiant au NBA, tu n'as pas les diplômes. Bon, après le basket, Yacouba, tout le monde doit être en mesure de faire quelque chose. Il te faut une éducation, une passion à côté du basket, après le basket, parce que ça va arrêter à mon âge de 30 ans, 40 ans. Le plus vieux joueur de l'histoire du basket maintenant, je pense que c'est LeBron qui est seulement 39 ans, le joueur le plus vieux de l'NBA. Après le basket, il doit avoir quelque chose à faire. Bon, si tu fais beaucoup d'argent comme ça, c'est facile, mais si tu as des skills, même les gens qui font argent, ils ont besoin de l'éducation, Yacouba, pour vraiment, vraiment bien gérer l'argent et puis avoir une idée de comment il faut faire après la retraite. Moi, quand même, je pense que les deux côtés, c'est Basketball Africa League peut bénéficier de ces deux côtés, l'éducation et le professionnalisme. C'est ça la différence, Yacouba, sur les deux.
En tout cas, il faut joindre, bien sûr, au talent, il faut joindre l'éducation pour mieux s'en sortir dans la vie, tu le disais. On ne joue pas au basketball toute sa vie. Si LeBron arrête à 40 ans ou je ne sais pas, un peu plus, il y en a qui sont obligés d'arrêter à 33 ans, à 34 ans, à 35 ans, qui sont encore très jeunes et qui doivent vivre pendant longtemps. Et donc, s'ils n'ont pas d'autre éducation en dehors du fait d'avoir de l'argent, c'est sûr que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et donc, il a dit, c'est très important.
Nous avons vu même des joueurs, Yacouba, les joueurs africains qui sont allés au NBA, mais ils sont toujours retournés à l'école pour finir leurs écoles. Il y a un qui s'appelle Gorgui Dieng, le pivot sénégalais, qui a été à Louisville et qui a été drafté à son senior, mais n'avait pas gradué pour faire son diplôme et retourné à l'école. Il y a beaucoup de joueurs, Yacouba, qui sont retournés à l'école. Nous avons vu aussi Joel Embiid qui est retourné à l'école après Kansas et même Shaq, on voit les Shaq O'Neal là, Yacouba, et tous ils sont revenus à l'école. Et tous les joueurs qui sont allés en NBA avant de graduer à l'école, ils sont retournés à l'école, Yacouba, pour essayer de vraiment obtenir leur diplôme qui pourrait les être utile après leur carrière.
Voilà, obtenir un diplôme qui pourrait être très utile après la carrière. Et c'est dans ce sens justement qu'il y a la NBA Academy du côté de Sali, à Dakar, au Sénégal donc. Alors, Cheikh, justement, parlant de cette académie de la NBA, on sait, les dirigeants de la Basketball Africa League font obligation aux détenteurs, bien sûr, des clubs qui participent à la phase finale, d'avoir chacun un élément, si tu veux, un joueur, un basketteur de la NBA Academy dans son effectif. Il y a des garçons, on a vu Aboubakar Sané, c'est bien ça. Et puis on a vu aussi un garçon comme Malouache qui vient de là. L'année passée, le jeune Malien qui était champion avec Al Ahly, qui a grioté quelques minutes de jeu à la finale. On était à Kigali ensemble. Est-ce que tu trouves que de plus en plus, ces garçons-là sont utilisés dans les équipes en question?
Bon, ils ne sont pas très bien utilisés dans les équipes, Yacouba, parce qu'à un niveau, l'équipe veut gagner. Et si tu n'es pas au bon côté du coach, ça va être un peu difficile, mais l'idée c'est de faire jouer avec ces grands gaillards, ces grands, pour vraiment avoir de l'expérience, parce qu'ils ont une avenir très 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 importante devant eux. Et comme tu l'as dit, la NBA Academy, ils encadrent ces jeunes gens là, Yacouba, dans le domaine de l'éducation. Ils les font lire, ils les font montrer l'idée. Le basket à votre niveau, ça ne peut pas aller sans l'éducation. Même quand aux États-Unis on dit, Yacouba, student athlete, l'élève athlète. L'élève vient avant le mot athlète. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas les bonnes notes, même en classe, Yacouba, tu ne vas pas avoir la chance de jouer sur le terrain au NCAA. Donc, l'idée, moi, quand même, Yacou, ils ne sont pas en train de bien jouer. Et ça dépend aussi des talents. Mais je sais qu'ils ont utilisé Malouach beaucoup. Et il y a d'autres joueurs qu'ils ont utilisés. Nous avons vu un autre pivot de AS Fous, du Maroc. Nous avons vu un jeune aussi de Ebol Elevate qui jouait avec Aliou Diarra là-bas, qui a très bien montré son potentialité aussi, Yakuba. On va le voir aussi en play-off à Kigali, Yakuba. Ça peut être le prochain Malouage qui va se quitter cette tournant de basketball Africa League pour venir aux États-Unis, Yakuba, parce que nous avons vu aussi là beaucoup de potentiel. Donc les jeunes gens quand même, Yakuba, ils ont beaucoup de potentiel, ils sont très bien encadrés, ils sont très bien encadrés en vision de la NBA, parce qu'on les appelle NBA Academy, Yakuba. Ça veut dire que c'est une académie de la NBA. On les enseigne comment les disciplines pour se rendre au NBA, Yakuba. Moi, je pense que c'est très important de les utiliser souvent. Et si les coachs nous écoutent, c'est ça même l'idée de Basketball Africa League, de les faire jouer pour les faire exposer aux prochaines étapes, Yakuba.
En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Tiro. Je rappelle qu'il est 17h, temps universel. En principe, c'est l'heure à laquelle commence ce match, le dernier de la conférence du Nil, entre Al Ahly d'Égypte, champion en titre, et Bangui Sporting Club de la République centrafricaine. La salle est encore sombre et donc ça va commencer sous peu. On aura les 5 majeurs de part et d'autre. L'annonce va se faire, vous l'entendrez en même temps que nous. Nous suivons tout ce qui se passe du côté du Caire en Égypte, donc où se joue, je le disais, ce dernier match de la conférence en île entre Bangui Sporting Club de la République centrafricaine, condamné à gagner ce soir pour espérer se qualifier directement pour les playoffs du côté de Kigali au Rwanda. Et puis, Al Ahly d'Égypte qui voudra bien finir sa conférence à la maison et qui a besoin d'une victoire pour terminer en beauté. En ce moment, elle compterait tout simplement, cette équipe égyptienne, bien sûr, compterait 5 victoires en 6 matchs. Ce n'est pas encore le cas. Je pense que les Centrafricains ont compris. Ils ont la chance de jouer en dernier parce que, écoutez, ils ont vu Al Ahly Sporting Club de la Libye gagner City Oilers et se repositionner deuxième. Et donc, les Centrafricains sont conscients de l'enjeu de ce soir, un grand match qu'ils devront livrer pour venir à bout de cette équipe égyptienne et se positionner deuxième et donc arracher cette deuxième place aux Libyens. Ce n'est pas encore le cas. Eh bien, ça va aller du côté du Caire tout de suite. Cheikh, dans un match pareil, pour des champions en titre qui veulent finir en beauté, parce que quoi qu'il arrive ce soir, ils finissent premier de leur poule, et pour des Centrafricains qui veulent arracher une deuxième place, comment on l'aborde? On y va à fond ou on observe un peu?
On y va à fond, Yakuba. On va donner tout ce qu'on a. Nous avons vu que le City Bangui Sporting Club a gagné City Oilers 2 fois, Yakuba, ce tournoi-là. Cette équipe de City Oilers a gagné Al Ahly d'Égypte. Donc, ça veut dire qu'ils ont la chance de vraiment gagner cette équipe. Yakuba, moi, quand même, je pense qu'il faut aller au fond. Surtout Darlene, qui s'est mis dans une condition très, très important pour son carrière de la NBA. Et s'il arrive à vraiment faire un bon match aujourd'hui, ça va lui donner la chance vraiment parce qu'il a l'expérience de jouer avec la D-League Ignite. Et puis ils ont aussi Jim Rambaye, tu l'appelles son nom, le faiseur du sale boulot. Jim Rambaye qui va commencer le match avec, il y a Curtis Hollis qui va commencer le match, Fula Nyangai Roli, et puis Nyang Welk, et Jimmy Wanga et Thierry Darlan. C'est les 5 d'emblée pour première entrant de Bangui. Et les Al Ahly vont avoir Ehab Amin Saleh, et Mark Steven Lyon, et Prince Adam Ahly, Tony Rezan Mitchell Jr., Omar Tariq Orabi. Ça va être les 3 d'emblée et les 3 premiers qui vont commencer le match pour les deux côtés. Et ça va être un match quand même très intéressant, Yakuba, à voir. Moi, quand même, je veux que les Bangui montrent que il y a une autre équipe. La compétition va donner une autre couleur, Yakuba. Ça va montrer que il y a pas de leader dans ce tournoi. Ça veut dire que tout le monde peut jouer. C'est ça que tu veux voir. Tu veux pas seulement venir voir gagner tout le monde et faire 5-0 ou bien 4-0. Et ça c'est pas la compétition. Et si tu perds des matchs en tant que champion, c'est ça qui montre qu'il y a une vraie compétition, Yakuba.
En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Tiro, au moment même où on parle. Et donc, tu l'annonçais, les 5 majeurs sont connus de part et d'autre. Pour le moment, on nous l'a constaté, Cheikh, il n'y a pas encore d'Evans Ganapamo dans cette équipe centrafricaine pour débuter. Sans doute qu'il souffre encore de son entorse ou encore de sa douleur à la cheville. Au moment où on découvre Malik, oui, si on peut avoir le son, parce que là, on voit le coach. Oui. On peut avoir le son, parce que là, on voit le coach centrafricain qui s'exprime, justement.
Quelques problèmes de récupération, mais le groupe reste toujours dans son objectif, essayer d'arracher sa place qualificative pour la suite.
Justement, pour arracher cette place, quels sont les ingrédients que vous comptez mettre dans ce match?
Oh, je pense d'abord que toutes les équipes ont le même nombre de matchs. Nous, nous comptons sur nos forces, notre force mentale, notre envie d'aller de l'avant, notre amélioration. Et jusque-là, on a fait preuve de résilience, donc on va continuer de nous appliquer là-dessus. Nous avons eu encore à bien scouter cette équipe, cette redoutable équipe championne. Et nous pensons que eux également sont éprouvés physiquement. Donc c'est un match qui va se jouer, c'est une place pour le ticket qualificatif. Et pourquoi pas une première place de la conférence. Donc, on va...
En tout cas, voici le 5 majeur de cette équipe de Bangui avec évidemment les deux grands absents qui ne sont pas là, comme d'habitude, Gana Pamo et Noah Buzor. On a toujours Darlan, on a toujours Jim Rabat, elle a quand même fière allure cette équipe.
Oui, la fière allure, Wake qui est dans le 5 de base. On espère qu'il
en... Voilà, et donc à l'instant même, François, le coach de la République centrafricaine, et donc le coach de Bangui Sporting Club de la République centrafricaine, chef, je ne sais pas si tu l'as entendu, il a dit on va aller chercher cette deuxième place et pourquoi pas une première place. Très rapidement, en quelques 15-30 secondes, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, Yacouba, il peut le faire. Nous avons vu une coach qui est très calmée, Yacouba, qui connaît ses joueurs très bien, et malgré les difficultés qu'ils ont eues dans les passés avant la saison. Mais Yacouba, tu as rappelé que cette équipe, Al-Ahli Sporting Club d'Égypte, a une très très bonne coach aussi, qui observe beaucoup les matchs et qui peut
faire beaucoup de décisions. Merci beaucoup, Cheikh Thierot. Le coup d'envoi a été donné donc au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire. On y va tout de suite, Sims. Merci à tous.
Je crois que Bangui perd de plus de 16 points. Sinon, ils seront derrière les Tigers. Donc s'ils perdent par moins de 16 points, ils seront qualifiés en étant d'ores et déjà l'un des deux meilleurs troisièmes. On va répéter un petit peu ce qu'on a dit lors du match précédent, mais encore une fois, il va y avoir les organismes mis à rude épreuve, plus évidemment pour Bangui que pour la Ligue, parce qu'ils sont évidemment beaucoup moins longs en termes de profondeur de banc.
Et puis vous avez les émotions qui s'accumulent pour cette équipe de Bangui qui a commencé à nous faire rêver lors de leur première victoire contre Al Ahly Libye. Maintenant tout peut arriver avec des joueurs qui ont plus d'influence tels que Ngafei.
Ouh, il est parti, attention en ligne.
Et ça va d'abord et avant tout se jouer en défense, se jouer à l'énergie. Maintenant il faut savoir qu'au match précédent, on va voir comment Amine est
entre les jambes face de Darlan.
Et il bouge comme un poisson, ce Amine, il trouve toujours la solution offensive.
C'est Michel en tout cas qui met les premiers points de cette partie. Malik, vous êtes notre homme de terrain pour ce match. On espère peut-être que du côté de Bangui, on aura encore une performance XXL d'Omega Ngaifei qui a été monstrueux lors du match précédent.
Il est très très concentré, il sait qu'il a un rude combat à mener contre Omar Orabi. Il a dit qu'il était prêt. Et puis le capitaine Djimizini Rambaï qui a harangué les partenaires en disant la première place est possible.
Bien sûr qu'elle est possible. Gagner par 7 points en plus.
On est compte sur un match après en avoir joué tellement pendant les 9 derniers jours. Vous êtes à un match, ou bien vous terminez premier, ou bien vous terminez troisième.
Oh là là, Orabi qui égalise. Il va y avoir des soucis de toute façon face à Omar Orabi.
Ouais, la première action, on a eu un Léopold Vert, deuxième action, on a Orabi. Alors, il n'y a pas de défensif parce que Jim Rabat a été exceptionnel dans la raquette. Mais il y a un fameux déficit de taille et de poids.
Rolicula, en effet, il avait mis 13 points Omar Orabi lors du match aller. Remporté de 6 points, on disait, par l'équipe égyptienne. Ils avaient craqué en fin de match les joueurs centrafricains.
Rabi qui passe. Ah, il est puissant, Rabi, sensation avec les coups.
Oh,
ben en NBA, je peux vous dire que ça aurait été peut-être même une expulsion.
Ouh, alors c'était pas volontaire, hein. Il était vite en train de flexer, mais c'est vrai que ça aurait peut-être.
Ah oui, mais
ça a été revu quand même.
C'est un coup de coude au visage.
Non, c'est au niveau de la poitrine, mais Thierry Darlan joue bien le jeu.
Ah
aussi.
Bah autant pour moi. Il faut rester en mouvement là, regardez Thierry Darlan qui regarde Jim Rabat. Mais il n'y a pas d'avantage véritablement dans cette situation là, il faut rester en mouvement derrière le ballon. Wade Schneider le fait très bien d'ailleurs.
Et il gratte le ballon, c'est un 1 contre 4, il va tout seul et il va pouvoir terminer. Wade, il a bien suivi le rebond offensif pour le sud soudanais. Oh, qui a l'air déterminé, Nyang Wade, qui lui doit quand même clairement une revanche, qui est un petit peu à côté de ses pompes sur cette compétition.
S'il veut donner un gros match, ce serait la soirée parfaite, parce que lors du premier match, la paire Thierry Darlan-Rolicula a combiné pour 50 points, 66% du scoring, donc à deux joueurs. Je ne suis pas certain qu'ils soient capables de faire le même miracle ce soir.
Et Thierry Ballon qui commence à moindre son rebond. On sait que c'est un des meilleurs rebondeurs de la compétition. Faute de Jim Rabai, ouais, elle est très très dure. Il dit qu'il touche pas, je suis. J'ai besoin de revoir ça d'abord.
Non, il le touche, il est placé avant que, regardez comment Rabi est solide là. On va pouvoir voir derrière ce qui se passe. Ah, la caméra, voilà, la caméra est bien positionnée. Ah non, on n'a pas vu.
On n'a rien vu du tout.
On n'a pas vu la situation.
On n'a pas vu par contre la faute de Jim Rabai, c'est dommage.
Oh, la bombe au segment de Wack.
Oh, la faute de défense. Sifflé contre Wack.
Ah, dommage. Wack qui entame avec beaucoup d'énergie. Ah ouais, c'est les pieds. Alors, il est, pour moi, il est positionné maintenant. S'il est dans le mystère, effectivement.
En tout cas, il a offert son corps à la science.
Tout à fait.
Oui, et puis une science qui fait 130 bons kilos. Un peu moins de 50% de réussite pour Omar Orabi sur la ligne dans cette compétition. Il va faire un score de quand même.
Il commence bien le match Orabi. Voilà, tellement pas ses fêtes. Petit avantage de ça avec Rolitsula.
Excusez-moi. Pas de, le seul panier qui a été inscrit pour l'instant par Bangui, c'est une claquette. Il n'y a pas de shoot vraiment inscrit.
Alors, il n'y a pas de miracle en 24 heures parce que quand ils mettent leurs shots, ils sont intéressants à voir. Ils ont parfois forcé les shots, mais malgré tout, ils les ont mis. Mais regardez, on regarde pour Folifula, on passe le blanc du Mabai et puis tout le monde regarde ce qui va se passer. Il n'y a personne qui coupe. Celui qui coupe quasi instantanément, c'est Wildschneider.
Il est dur, c'est très 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 dur. Il est complètement à côté surtout. Allez. Lions qui attend le retour d'Amin. Mitchell demande le ballon, c'est Ali qui est servi finalement.
Il bouge bien avec le ballon Ali. Ouh, qu'il est vite.
Et qui va se rencontrer, ouais. Il y aura la faute de Rolitsula qui acquiesce.
Il y a quelque chose que le joueur doit absolument apprendre, c'est qu'à chaque fois que vous sautez, vous n'êtes pas obligé de contrer, vous pouvez juste le contester. On le fait parfois très bien. Regardez, au lieu d'aller, regardez, vous voyez son bras qui va vers le ballon. Non, sautez, restez dans votre verticalité, bien garder les bras droits et. Vous allez diminuer le pourcentage du shot de l'adversaire avec un peu de chance, capable de prendre le rebond derrière. Parce qu'on sait qu'automatiquement, ça crée une faute.
C'est du match compliqué, en tout cas, pour Bangui sur le plan offensif. C'est du match compliqué aussi sur le plan défensif, ceci dit.
Il faut rapidement trouver ses marques offensivement. On avait Noah Buzor qui était assez bon. Oh, c'est dommage, il vient de se faire chipper le ballon, s'est ennuyé. Mais Noah Buzor était assez bon pour contrôler le tempo.
Ça fait deux interceptions en tout cas par Wildschneider. Et la fin de passe, et encore une fois,
non, oh, mais c'est finalement. Dommage! C'est dommage. De 1, on a la finition là, près de l'anneau, qui est un petit peu trop forte. Et puis derrière, on a simplement qu'à prendre le rebond et à remonter. Mais on tente la claquette dunk.
Ah, il a dunké avant d'avoir le ballon dans les mains.
Est-ce qu'ils doivent faire attention? C'est dans la manière dont ils vont aussi manager leur énergie.
Amin. Mitchell à 3 points. Et le rebond récupéré par Nyong'o.
Ouais, il est bien, ouais, il est bien.
Darlan. En effet, à son tour. Et voilà, avec de la réussite,
oh, c'est dommage.
Finalement, le rebond pour Wildschneider. Jim Rabai, Darlan, à nouveau.
Ah, il est léger, il est sur un 0 sur 3. Ils sont quasi obligés de jouer à ce rythme où, en gros, à chaque fois que vous avez une opportunité de shotter, prenez votre shot. Parce qu'une fois que la défense égyptienne est placée, ça va être compliqué.
Et là, une superbe qui évite le contre.
Oh, c'est beaucoup trop facile en ce début de match. Il n'y a rien qui va de leur côté.
Il y a un écart de 9 points.
Jumrabah à une distance. Allez, voilà, pourquoi pas. Enfin, il aura fallu attendre 4 minutes 30 pour avoir un bon shoot qui va rentrer dedans.
Il faut lui faire confiance, Jumrabah, sur ses shots mi-distance. On sait aussi que Rabi ne va pas sortir sur lui.
Amine, à 3 points. Ouais, évidemment, comme à chaque fois. Et Abamine qui sanctionne derrière là. Il aura été très très régulier, et Abamine dans cette conférence, sur un temps de jeu qui est parfois pas toujours compréhensible. Il joue à peine 20 minutes. En tout cas, on revoit ici comment Lions évite le compte. Thierry Darlan, 14-4 plus 10 pour Al Ahly. Il y a une place de champion de cette conférence en jeu, et pour l'instant les Égyptiens sont mieux entrés dans leur partie.
At Rwandair, every flight is a journey of commitment. We prioritize the transportation of our customers' goods. Our cold storage facilities maintain freshness for perishables throughout the journey. Our warehouse is designed to handle a diverse range of goods with care and efficiency.
Voilà, tambour donc du côté du complexe sportif Hassan Mustapha du Caire. Al Ahly d'Égypte, champion en titre, mène 14-4. Cheikh, tu es là? On a vu, c'était un match difficile hein, pour les centrafricains d'entrée. Rien ne leur réussit jusqu'ici.
Yacouba, quand tu regardes le match, tu vois que l'équipe centrafricaine a un niveau de jeu décisif mieux que cette équipe Al Ahly d'Égypte. Parce qu'ils n'arrivent pas seulement à mettre des points, Yacouba, ils ont eu beaucoup de second chance, même troisième chance de marquer au côté de la raquette. Et puis ils ont manqué beaucoup de panier Yacouba, sinon le score a été différent maintenant. Mais cette équipe quand même, Bangui joue avec plus d'énergie que cette équipe Al Ahly. Cette équipe Al Ahly est en train de jouer avec son talent et puis les atouts qui montrent qu'il sait jouer le basket. Mais décisivement, et puis côté tension, je pense que cette équipe Bangui Sport est mieux décidée que Al Ahly, ce que je vois maintenant tout de suite.
En tout cas, pour le moment, comme tu le dis, on voit que l'équipe d'Al Ahly essaie juste de mettre ses paniers. C'est aussi ça, aussi l'expérience.
Absolument, absolument, parce que nous avons vu, Yacouba, cette équipe Al Ahly, c'est des équipes très bien coachées, et puis c'est des joueurs très bien expérimentés qui savent déplacer la balle partout. Donc à la moindre des erreurs, ils prennent l'avantage. C'est ce que nous voyons maintenant tout de suite avec cette équipe de Bangui.
Merci beaucoup, Cheikh Thiro. Le jeu a repris du côté du complexe, hein. On va y retourner tout de suite.
S'ils sont obligés de les prendre dans un match comme celle-ci, vous prenez beaucoup plus d'énergie que quand vous marquez en équipe.
Rabi Lions, catch and shoot. Ça va rentrer pour Marc Lyons maintenant, la passe décisive comme de la Rorabi.
Ouais, ça fait mal hein, parce que pour l'instant du côté égyptien, on a une panoplie de joueurs qui sont rentrés dans le match.
Jumrabah à 3 points pour répondre. Heureusement qu'il est là, Jumrabah dans cette partie, ça fait 8 points pour lui maintenant.
Sur le temps mort, Auguste Djinzé a demandé à ses joueurs de la patience. De la patience, de la circulation de balle pour épuiser la défense.
Rabi, la claquette, non. Et ça faisait que 5 points d'ailleurs pour Jumrabah plutôt que 8.
Et Rabi, il était là en train de faire son tipping de la pointe des pieds. On avait 3 joueurs de Bangui qui essayaient de l'ennuyer.
Allez, à 3 points, ça rentre dans tous les côtés, ça fait déjà 20 points. 20 points encaissés par la défense de Bangui. Wetschider, Darlan,
allez, un mismatch.
Et à nouveau, la fin de foot,
Jumrabah. Merci beaucoup.
C'est le premier panier facile pour Bangui, mais quelle passe de Jumrabah.
Mais là, il était en mode point center.
Et il bagarre derrière face à Rabi. Il est en galère.
Oh, bien aidé de Thierry Darlan.
Oh, et le in and out pour se défaire. Le spin move maintenant. Ah, c'est dommage, il en fait trop.
Allez, longs efforts. Vous avez 1, 2, 3 défenseurs.
Et il n'y aura pas de claquette. Rolifou l'a bien défendu. On renverse. Lions à 3 points.
Très
mal, Lyon, c'est sa deuxième réussite.
ou c'est peut-être le gros match aussi d'Alali qu'on attendait, qui n'a pas été exceptionnel derrière les 3 points, qui a bien shooté, mais sans plus.
On peut dire qu'ils ont gardé le meilleur pour la fin.
Ah, probablement. Il y a un titre de champion de la conférence en jeu, mine de rien. Même si c'est uniquement pour l'histoire. Et qu'il n'y a pas vraiment de trophée à la haut bout.
Ah, ça pousse derrière, ça pousse. Quelle pression sur la défense.
Amin, Orabi.
La belle passe d'Amin pour Orabi. Avec la faute. Ils sont dépassés par le tempo, ils sont dépassés par la taille à l'intérieur, ils sont aussi dépassés stratégiquement pour l'instant. Jim Rabai qui ne peut pas faire grand chose, mais si Jim Rabai est à l'extérieur, regardez la faute de Thierry Darlan.
On appelle Patrick Gardner en tout cas côté égyptien. Il est seulement bail côté Bangui. Vous parliez du pourcentage au shoot des Égyptiens, ils sont sur les. Cette équipe de cette saison pour l'instant, on n'en a vu que 7 vu qu'évidemment Dynamo a été disqualifié. Ils ont le troisième meilleur pourcentage, ils sont à 33,8% de réussite. Et c'est Bangui.
C'est bon, ouais.
C'est Bangui qui est numéro 1 dans le domaine avec 36,4%. Il faut dire que quand on a le magicien Rolly Fouda dans son équipe, c'est plus facile.
Et vous savez, et c'est intéressant ces statistiques parce que les 3 points de Bangui viennent en fait sur des sursauts de talent. Sur des moments, en fait, on est quasi dans les balles aussi 50-50. Un joueur décide de faire quelque chose, le ballon est rentré dedans. Ce ne sont pas des 3 points qui sont préparés, étudiés, où il y a tout un système de jeu tout autour. Donc, on est content tant que ça arrive. Et Rolly Fula a été plus qu'exceptionnel à ce niveau-là. Mais on n'est jamais sûr du prochain match.
Il a mis 22 shoots à 3 points en 5 matchs.
Mais c'est énorme.
22 sur 41, 53.
Et dans quelles conditions ?
Dans quelles conditions, bien sûr.
Dans des angles morts. Parfois extrêmement contesté sur des pertes de balles, il a été incroyable. Une très bonne défense de El Ghizaoui qui empêche Rolly Fula d'avoir le ballon.
Alors Jacques, est-ce que l'absence d'un meneur de métier contre une défense comme ça n'est pas un problème?
Ah oui, je te rappelle. J'ai donné la statistique tout à l'heure de Mabuzor qui n'avait pas été incroyable lors du premier match, il avait seulement 3 points, 3 assists. Mais je trouve qu'au moins sa présence, son expérience, bien sûr, sert à beaucoup de choses. Et permet de repositionner tous les autres joueurs qui sont sur le terrain. Wayne Shader a été très très bon,
ouais,
dans mener le ballon, pas avoir trop de paires de balles, mais c'est pas un naturel à cette position-là.
Et Darlan, par rapport à ça, parce que nous, sur nos fiches, on nous annonce un meneur. Est-ce qu'il a joué meneur dans cette compétition déjà?
Alors, par deux fois, l'entrée en jeu d'Omegan Gaifo est refusée par les arbitres parce qu'elle ne se fait pas dans le bon tempo.
Il en tout cas, il va faire son apparition. Je disais, Jacques, par rapport à Thierry Darlan, c'est vrai que Nimofis nous annonce un meneur. Est-ce qu'il a joué meneur dans cette compétition?
On l'annonce meneur. Est-ce qu'on l'annonce meneur ou garde?
C'était marqué point garde.
Ah non. Thierry Darlan n'est pas un point garde. Non. C'est un garde, mais un point garde. Non. De un, vous ne voulez pas qu'il ait la pression défensive de devoir tenir un joueur à cette position-là. Ça va énormément fatiguer. Et il n'a pas, bien sûr, le drift. C'est un drift vraiment spécifique. Vous êtes un garde.
Elle disait oui. El Ghendi à 3 points.
Oh là là, je pensais que si El Ghendi aussi. Ah ben voilà, écoutez.
Bah là voilà, dans ce qui fait de mieux, El Ghendi en péril, hein, à 3 points. Il est à 3 sur 18 maintenant sur la compétition derrière l'arc, mais on sait qu'il est beaucoup plus adroit sur son flotteur. Wakeshider, il n'y a pas de coup de sifflet. Si, finalement.
Oh, Wakeshider qui fait du bien.
Avec la faute en prime. Complètement libéré, hein, par le fait d'être sur le. D'être dans le 5 majeur maintenant.
Ah, il a gagné sa place à cette position-là. Et je dirais même, s'ils avaient l'opportunité d'aller au Rwanda, il ne faudrait pas l'oublier sur le banc, Wayne Shader, parce qu'il a montré qu'il en avait dans les tripes et qu'il en voulait.
Alors, il a gagné sa place, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que les blessures des Ganapamo, nous abusant par la force des choses, lui ont réservé un poste de titulaire. Aïe, 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 Ghizaoui qui est pas loin d'intercepter la passe un petit peu téléphonée. Il s'en excuse d'ailleurs, Kurt Wakeshider. À nouveau, une distance, le remont pour Kedjo.
Ngafa va peut-être être une solution pour cette équipe de Bangui. On va jouer à deux big men en même temps, Gardner sur le terrain, c'est aussi du 3 points. Donc là déjà qu'ils sont de bonne humeur derrière la ligne.
Une nouvelle interception de Wexhider.
Mais Wexhider a l'échauffement, et même on l'a eu quand il jouait pour poste 2, tentative de dingue, mais là quand il est en contre-attaque, par contre c'est autre chose.
C'est sa troisième interception déjà. Kurt Wexhider, 28-15. En tout cas, ils ont un peu raté leur premier carton, les joueurs de Bangui. Et pourtant, il n'y a que 13 points d'écart, c'est pas énorme.
Ils sont revenus quand même dans le match, juste par rapport au rythme et à l'intensité. Ils ont commencé, ils étaient un petit peu lents sur le jambes, en défense, beaucoup d'individualité. Ils sont mieux dans leur rythme.
Fin du premier carton ici en Égypte. On fait une toute petite pause, on revient.
Introduced so many people in my life, but I've rarely felt so honored and proud to introduce.
C'est la fin du premier carton du côté du complexe Hassan Mustapha du Caire, et c'est l'équipe locale, l'équipe haute, qui mène 28-15 pour Bangui SC. Cheikh Tiro, on a vu un premier carton très engagé, tu l'as dit, les Centrafricains montrent beaucoup de volonté, mais en face il y a de l'expérience et ça paye cash.
Absolument, Yacouba, nous avons vu le meneur américain Mark Steven Line, qui vient même des remplaçants du banc. On parlait du banc avant les matchs, Yacouba. Le banc de cette équipe est très fort, Yacouba, comparément au banc de l'équipe de Bangui. Nous avons vu que aussi ils n'avaient pas assuré les points, Yacouba. Sur 17 tirs de 2 points, Yacouba, ils ont marqué seulement 5 des côtés de Bangui Sport. Et puis l'équipe Al-Ahli a marqué sur 8, ils ont marqué 6 et puis 6. Mettre 3 points, ils ont réussi à mettre 4 3 points. L'équipe de Bangui, sur 5 3 points, ils ont arrivé à seulement mettre un dedans. Donc, Yacouba, si cette équipe Bangui, qui a 17 essais au niveau du cerceau, Yacouba, qu'ils ont seulement mis 5, s'ils arrivaient vraiment à mettre ce point-là, on allait avoir une grande différence sur les points d'écart sur ce match-là, Yacouba. Mais ils n'arrivent pas à tirer les points sur le match-là qui donne beaucoup de problèmes avec cette équipe. Yacouba a rappelé aussi que la salle aussi, ça donne beaucoup d'avantages. Nous voyons que la salle est très remplie, Yacouba.
Et justement, Malik le disait en commentaire, qu'on dirait que les Égyptiens ont réservé le meilleur pour la fin. Je rappelle que le score est de 28-15. Ça ne sent pas très bon pour les Centrafricains, même si jusqu'ici l'écart n'est pas grand, au moment même où ça repart du côté du complexe Hassan Mustapha du Caire pour le deuxième carton. On y va tout de suite.
13 points d'écart dans un premier carton, ça fait mal. Hein.
Ça fait mal, mais ce que je voulais dire, c'est que 27%, je ne suis pas sûr que Bangui reste avec si peu d'adresse tout le match.
En tout cas, messieurs, sur le premier contact entre Mustapha Kijo et Omega Ngaifei, c'est Ngaifei qui a vacillé.
Donc là, il y a un combat de sumo à l'intérieur.
Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a faire et faire.
Pour l'instant, ouais. Il ne fait pas très bien. Rolik va lui demander une faute. Et Kijo, il y aura jumbo, le ballon rendu à Bangui, possession alternée évidemment.
On voit le ralenti de Kejo qui a raison de plonger, ça fait partie de son boulot, Kejo. Mais par contre, il a dégonflé le ballon.
C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien du tout et je refuse de rigoler à cette blague.
Qui était délicieuse d'ailleurs, je trouve.
Qui travaille à 3 points.
Oh, c'est dommage!
Guys Fay qui remonte, pas tout sifflé.
C'est dommage, Jim Rabai. Parce que tout ça, en fait, ça a un double impact. Bien sûr, l'impact des 3 points, mais aussi ça va obliger le big man à sortir et peut-être ouvrir des options dans la raquette de pénétration.
Oh, la fait pas. Et ça faisait un moment qu'il campait dans la raquette, quand même. Hein,
El Gendi qui ressemble vraiment au voisin. Il a pas un corps de sportif. Il a d'ailleurs pas une dynamique de sportif, mais quelle expérience. Enfin, je sais pas si vous avez un voisin comme lui. J'ai un voisin comme lui.
Mon voisin de palier n'a pas le flotteur d'El Gendi.
Regardez. Non, mais physiquement. Moi, je le vois bien le matin aller chercher ses croissants.
Écoutez, j'ai envie d'aller au marché avec El Gendi. Voilà, je vous le dis.
Ça doit être un fin cuisinier à la maison.
Ah, vous pensez?
Il m'a l'air d'être un bon vivant.
Pourquoi pas, effectivement. Arrivée de Moraïb, en tout cas, côté...
Bon, à sa déchance, ça fait un homme qui n'a pas joué. Hein. C'était fait les croisés.
Et en ce qui concerne Moraïb, c'est seulement le troisième match. Il n'a plus joué depuis le deuxième, justement. Il avait été starter dans ce match-là. El Ghizaoui à 3 points.
El Ghizaoui qui chutait jusqu'à maintenant à 57% à 3 points. Je pense qu'il était à 4 ce set, d'ailleurs.
Absolument 4 sur 7.
Je sais que je vous impressionne quand je sors des statistiques comme ça de moi.
Bah,
et c'est le travail de l'ombre derrière.
Oui et non, oui et non. C'est quand même pour ça que vous êtes là, Jacques.
Donc, oui. J'aime bien regarder le match tôt le matin.
El Ghendi à 3 points. Et lui, par contre, il est vraiment, vraiment pas très adroit à 3 points cette saison. Et il continue d'arroser sévèrement d'ailleurs.
Ouais, quel joueur était premier sur le ballon. Gaffey, vraiment, s'il peut ne puisse avoir une présence en rebond et en finition, il ferait beaucoup de bien. Parce que finalement, ces deux big men ne sont pas exceptionnellement athlétiques. Jim Rabah, Gaffey, c'est des beaux bébés, mais c'est pas un Malouag. Ils ont besoin de contrôler le sol. Et là, même avec les changements, avec Kejo ils vont avoir, et Garnon, ils vont avoir du mal.
L'écran de Kejo pour libérer Moraïd.
Il est encore dedans, Kejo. Hein.
Aïe, par contre. Gaffey qui ne peut pas récupérer le ballon.
Regardez Jim Rabah qui est en train de motiver Gaffey. On dit hey, c'est maintenant qu'il faut faire le boulot. Il faut se battre. Mais il a quand même mis 22 points hier. Il a été absolument exceptionnel dans la caisse face à Malouak, qui est un autre extraterrestre.
Oui, oui. Elle gagne.
Il n'y a personne dans la raquette.
Ah, c'est très bien fait de la part des Égyptiens.
Mais il a été en ligne droite, il n'y a personne de Bangui qui s'est interposé, qui a mis de la pression, il a fait un dribble, il a eu un lay-up.
Roly Fula qui prend ce difficile à mi-distance. Et bien, c'est peut-être ce soir que Roly Fula va rentrer un peu dans le rang. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'adresse pour le Congolais qui va gratter un ballon quand même. Il y a peut-être la faute.
Oh, il
n'y
a
quand
pas
même
faute. Je suis étonné, il y avait du contact. En plus, il a pris vraiment position du ballon, possession ballon du ballon.
Ah, ça fait mal parce que derrière, Gardner sanctionne à 3 points alors que c'était vraiment devant nos yeux. Et François Henniguet devant les Congolais. Mais je suis d'accord avec François Henniguet, c'était vraiment là, juste sous nos yeux. Ouais, je vois pas comment.
Il a raison.
Je vois pas comment c'est possible que le coup de sifflet ne soit pas intervenu. 38-15. Il va falloir faire attention pour les Bandits parce que là maintenant la situation commence à être compliquée. Et ça va faire l'affaire des Tigers de Cape Town dans l'autre conférence, dans la course pour le meilleur troisième évidemment. Nouveau temps mort dans cette partie.
Après quelques 2 minutes de jouer dans ce second carton entre Bangui Sporting Club, la République Centrafricaine et à la Ligue d'Égypte, je m'en vais vous donner quelques statistiques. Cheikh avait commencé jusqu'à présent. Eh bien, Steven Lyons à la Ligue d'Égypte, donc le meilleur marqueur avec 8 points. Kurt Curry, bien sûr, du côté de Bangui Sporting Club, 6 points. Et puis Jim Rabah, 5 points. Cheikh, est-ce que on est en train d'abandonner un tout petit peu du côté de Bangui?
Absolument, Yacouba. Comme je t'ai bel et bien dit, ils sont très bien coachés, cette équipe d'Al Ahly. Nous voyons que le coach a mis seulement les bancs de commencer le deuxième carton, Yacouba. Le deuxième carton avec cette match. Et c'est d'ailleurs qui tient le match. Et il ne va jamais le faire sortir s'il tient le coup. Et c'est un coach qui est très bien surmonté. On voit que au même moment que l'équipe de Bangui Sport qui est en train de vraiment souffrir un peu à marquer les points. Et puis, ils trouvent des secondes chances. Même troisième chance, ils n'arrivent pas à marquer le point dans les raquettes. Et comme on a vu, Yacouba, ils ont raté beaucoup de points. Et si tu regardes les charts, ils ont chuté plus de 17 fois, plus de 20 fois. Ils ont marqué seulement 5 parmi les 20. Donc l'autre équipe, ils ont chuté. L'équipe AS, Al-Ali a chuté combien de fois? 8 fois. Ils ont chuté 8 fois, ils ont marqué les 8.
Cheikh, le jeu a repris du côté du complexe sportif Hassan Mostafa du Caire, donc on y va tout de suite.
Assurer sa place parmi les meilleurs, troisième. Et surtout ne pas prendre une valise par le club égyptien.
En tout cas, François Enyenge a expliqué à ses joueurs pourquoi il s'est emporté. Voilà, l'idée c'était de rentrer un tout petit peu psychologiquement dans la tête de l'arbitre et il a demandé à ses joueurs, eux, de ne pas sortir du match.
Outsider.
Ah, c'est un shot qu'il aime bien, ça.
Deuxième faute de Megan Gaifey, par contre.
C'est un shot qu'il aime bien, Outsider, qu'il a très très souvent mis d'ailleurs pendant toute cette compétition.
Thank you. 0 point pour Darlan, 2 pour Rolifouda pour l'instant. À mi-chemin dans ce deuxième carton, c'est inhabituel. Cette offensive s'est rendue. La faute de Keggio, me semble-t-il.
Faute sur écran de Patrick Gardner.
C'est Gardner qui est pris. Darlan. Jim Rabaï qui essaie de passer, il y aura le coup de sifflet.
Un peu de chance peut-être, non.
Et lancé à suivre. Pas beaucoup de rythme dans ce deuxième carton pour l'instant, c'est haché par les fautes.
Et Jim Rabaï qui aime bien attaquer l'intérieur de la raquette, peut-être qu'il devrait parfois passer des uns parce qu'il y a tout le monde qui l'attend à cette position-là.
On va mettre le premier en cette fois en tout cas. De Jim Rabaï. Mais l'écart est conséquent quand même, hein. il y a 21 points d'écart.
Ouais, c'est une question de trouver du rythme, mais vraiment des deux côtés du terrain. Et vous avez, dans le basket, vous avez du mal à trouver du rythme si vous n'êtes pas capable de contrôler l'adversaire défensivement à l'extérieur, et surtout si vous n'êtes pas capable de contrôler le rebond, parce que vous n'êtes pas capable de courir. Et c'est exactement ce qui arrive là pour Bangui, c'est que voilà, il y a des fuites, il y a de l'eau qui rentre de partout.
Et Gendi.
Ah, regarde Keggio,
un peu de mal. Elle dit, oui, la fin de passe. Et qui attaque derrière, rebond récupéré par Bangui.
Ouais, c'est bien, il peut courir.
Wexider qui va mettre
voilà, Wexider.
Les transitions de Bangui qui, comme d'habitude, leur permet de continuer à espérer.
C'est pas du Jokic, mais ça y ressemble, de l'accord de Jimmy Durandal.
Aguizaoui.
Oh, il est passé Gardner Bezlingo. Oh, le beau petit toucher de Gardner. Gardner, quand il est capable de prendre des shots à 3 points, on va avoir des petites punitions comme ça. Tant qu'il n'a pas besoin d'être très physique dans la raquette, il est à son meilleur.
Darlan. Ça ne rentre pas. Rebond récupéré par Bangui. Jim Rabaï, mi-distance. Ah, ça ne rentre toujours pas.
Ouais, c'est difficile. Hein.
Et on va revoir bien sûr la longue passe de Jim Rabaï.
Qui est un spécialiste du touchdown. Il nous en fait quelques-unes sur cette conférence.
Et l'arrivée pour la première fois aujourd'hui de Billy Kamayenge, qui n'avait pas joué le dernier match. Qui va faire son apparition d'ici quelques instants. Il n'est pas encore rentré. À 3 points, Organ Gaifé récupère le rebond. Kamayenge. À 3 points. Un petit peu long, Rolifoula. Ah, c'est dommage, ils ne se sont pas parlé. Keggio qui va derrière marquer, ce n'est pas des trucs faciles.
Ça, c'est pour vous, Jacques. Keggio est capable de terminer une contre-attaque.
Et ça va enfin rentrer pour Darlan, les premiers points aujourd'hui.
Alors je voulais juste rappeler que lors du match des Oilers, même si Thierry Darlan n'a pas bien shoté, il a été clutch au bon moment sur des shots à 3 points, des shots à des paniers après faute.
Oh là 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 là, la réussite énorme des joueurs d'Alali.
Ouais, mais s'ils ne défendent pas, excusez-moi, tout ce que je peux dire peut tomber à l'eau. S'ils ne défendent pas, ça ne va pas.
Non, mais comment est-ce que vous pouvez descendre là-dessus? Regardez, c'est même pas une passe.
Oui, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un moment arrêter l'adversaire, quoi. 44 points, il reste 4 minutes.
C'est surtout dans les deux nouveaux perdus par Bangui. Il aurait presque pu avoir la petite faute de Kamayenge en plus sur le bras. arrivée de Saran côté égyptien. Gendy, il n'y a pas de coup de sifflet.
Il n'a pas pu sortir et s'en mêler les pinceaux avec Thierry Darlan. Il est en train d'expliquer sûrement à l'arbitre que peut-être qu'on l'a retenu.
Gendy. Marwan Saran à 3 points. Le rebond pour Guy Fay.
Un super boxeur de Jim Rabai sur ces jours qui n'était pas proche du ballon.
Darlan qui s'arrête.
Oh, il y avait un faute, il y a une faute.
Ouais, faute sur la main, effectivement, trois lancers à suivre pour Thierry Darlan.
Il est bon pour ça, Thierry Darlan. Je trouve qu'on doit prendre ses shots. Il est intelligent, il sent la faute qui arrive, sans vraiment forcer. Alors peut-être que Kamaenge, entre guillemets, qui avait fait un premier excellent match. Alors il y avait quelques paires de bas, mais il a quand même terminé le match avec 10 points. Je pense pas qu'il a marqué 12 points sur les matchs juste après ça. C'est un joueur qui est capable de changer le rythme. Il sent l'organisation, s'il a une capacité d'organiser sur la première passe. Mais de plus que le ballon contre-attaque, il pourrait être très intéressant.
Deux fois plus de points en tout cas pour les Égyptiens que pour les Centrafricains. Retour de Lyon, première apparition d'Abel Nasser qui était titulaire lors du dernier match. Là très clairement côté Djoulbé, on fait vraiment tourner parce qu'on on voit déjà Sarah, on a vu Morhaït qu'on n'avait jamais vu pour l'instant quasiment.
Oui, et puis quand vous avez une avance pareille comme ce soir et que vous avez l'opportunité et la chance de voir tourner votre banc, vous êtes exactement là où vous avez envie d'être. Parce que regardez qui remonte sur le terrain, il y a Lions qui remonte sur le terrain. Voilà, ça roule à l'ancienne. Ouais, je vous parlais de défense pour l'instant. Cette équipe est égyptienne, shot à 68% à 2 points et 37% à 3 points.
En tout cas, les 12 joueurs ont foulé le parquet. Le 13e, c'est Sefeldin Endaouz.
Jim Rabai quand même. Ça fait 9 points pour Jim Rabai.
Ah, ils vont aller jusqu'au bout les Égyptiens ce soir. Ils vont pas se rater, ils sont tombés dans le plus gros guet-apens de la saison.
Il y aura la faute derrière de Darlan.
Elle est intéressante cette faute parce que moi j'ai l'impression que Tujo avait perdu complètement son équilibre. Et avancer vers le défenseur, on va pouvoir le voir maintenant. Regardez, j'ai l'impression que sur le pas il perd son équilibre.
Il y a quand même un coup de Darlan.
Ouais, il y a quand même un coup de Darlan, exactement.
La bonne nouvelle c'est qu'on va retrouver Mustapha Kedjo au lancer franc et que ça c'est toujours un plaisir. Bon, il n'a pas été beaucoup en réussite hein, pour l'instant, il a fait 1 sur 5. Et là on est du bon côté pour voir vraiment la mécanique. Avec la planche, s'il vous plaît.
La planche va se ramasser un bon coup de poing dans les dents. Ça a été une belle petite brique qu'il a envoyée. Mais écoutez, tant que ça rentre.
Peut-être pas, peut-être qu'il a fait exprès. Vous savez que des fois on shoot avec la planche. Non, c'est autorisé.
Alors quand vous dites des fois, vous voulez dire quoi? Une fois sur 3, une fois sur 100, une fois sur 1000?
Laissez-moi regarder mes stats.
On est en fin de soirée là pour l'instant, j'ai besoin de plus de précision.
Laissez-moi regarder mes stats. Darlan à l'écran de Jim Rabai à 3 points. Darlan, toujours pas de réussite. Lions récupère le rebond.
Ouais, il y a cette faute là. Oh non.
Et Wex sera pas sanctionné. Il y aura le pied par contre qui sera sanctionné. Le ballon va être rendu à Lali.
En tout cas, il se plaint d'un coup de coude, Young Wex. Mais c'est insolite.
Regardez comment il passe Kamaenge, il continue, on va peut-être voir là si c'est pas à ce moment-ci. Hop,
ça coupe au moins bon moment. Et là il y a encore une faute. Elle est sur Kedjo.
Thierry qui lui dit dans le dos. Faute technique.
Et là il y a les petits mots doux.
Oh, Kedjo est pas content. Kevin qui est pas content. Il est vraiment pas content parce qu'il y a des petits mots.
Et lui, voilà. Prochaine attaque, tu vas voir qui je suis. Et on qui en rajoute une couche.
Ouais, je pense que Thierry Darlon lui a dit quelque chose de désagréable.
Oui, bien sûr.
Double technique.
Et il continue.
Parce que Kejo, c'est pas quelqu'un qui a un véritable problème. Hein. Il n'est pas quelqu'un comme ça. Il est agressif physique sur le terrain, mais ça déborde jamais. Il ne part pas beaucoup à l'adversaire.
Alors, est-ce que c'est pas deux techniques qui ont été données?
Deux techniques multiples, là, il me semble.
On voit Mark Lyons qui dit à Kedjo, qu'est-ce que tu fais? On est en train de gagner. Et malheureusement, deuxième faute, évidemment, pour Darlan.
C'est même la troisième, il me semble. Avec cette faute technique.
Pardon, puisque c'était la faute de Kedjo. C'est une faute offensive.
Il y a une faute de Kedjo et faute technique de Darlan.
Ah ben voilà. Donc c'était pas une double technique alors?
C'était pas une double technique.
D'accord.
Oh, mais il avait marché, sifflé.
Je vais rien dire, j'ai pas l'impression qu'il a bougé. Il a du mal à gérer le ballon, mais les pieds, par contre, j'ai pas l'impression qu'il les a bougés.
On est dans un temps un petit peu faible là sur ce deuxième carton. Il y a beaucoup d'émotions et pas les bonnes. On va passer sur sa gauche, il va aller derrière Touré.
Trop facile, fin de pied droit, on démarre main gauche, il n'y a personne qui vous arrête, en gros la ligne droite qui s'ouvre, 49-26, on n'a pas encore trouvé de solution, ni défensivement, ni offensivement.
Mohaïb, ça a l'air d'être un bon partenaire, parce que à chacun de ses paniers, bah, tout le monde est content.
Mais, alors que Kurt Wexler, et le ballon va être perdu, mais pour Morey, moi je comprends pas pourquoi il a ce qu'il peut jouer. Il a joué que deux matchs, 10 minutes de temps de jeu, 8 points de moyenne, et à chaque fois qu'il rentre, il est impactant.
Écoutez, il y a quand même. D'où nous sommes positionnés, on peut se poser des questions. Maintenant, peut-être qu'il est blessé, peut-être pas moi, il y a tellement de choses qu'il n'est pas à l'aise, enfin, ou quoi que ce soit.
L'effectif est long, hein, de Galali, on est d'accord, hein, bien sûr, il y a beaucoup de joueurs qui sont peut-être meilleurs que lui. Mais il va aller chercher en plus la faute maintenant.
Cette fois-ci, c'est un contact entre Saran et Weck. Le match se durcit, il se tend.
Allez, la mi-temps va leur faire du bien des deux côtés.
Mais surtout, le BSC n'a pas besoin de tomber dans ce type de provocation.
Va mettre son premier dans ses francs, déjà 50 points ce qui part à la ligne.
Alors c'était Kedjo et Darlan, maintenant c'est Saran et Weck qui s'envoient des mots doux.
Quelque chose de départ pour Marwan Saran.
Oh, quasi le nouveau score juste avant la mi-temps.
Non, bah, c'était un petit peu plat comme truc, mais ça rentre quand même.
Ouais, il est bien qu'il s'écrase sur l'arrière du cerceau. Allez, faut ce qu'il faut. Faut défendre, faut pas les amener. Oh. Ouais, ça c'est
nouvel épisode. Nouvel épisode entre Saran et Weck.
Ça fait marrer Mark Lyons par contre.
Et je pense que Lyons essaye de faire le médiateur dans cette situation en leur disant, écoutez, nous on veut juste jouer au basket. Et la fin de carton qui prend du temps.
Oh là là, il est gentil celui-là. On est sur une première mi-temps bien pourrie par contre, hein, en termes de rythme et de petits contacts et de ceci et de cela. On n'a pas vu du beau basket pour l'instant. Quand je dis pourri, je ne parle pas du niveau de jeu, je parle du déroulé, du développement, du rythme, etc. Il y a plein de petits contacts, des mots, des techniques.
Oui, les deux dernières minutes ont vraiment alourdi comme, enfin, l'environnement. On a eu des belles sessions, des bons moments du côté de Al-Ahly quand même, avec des shots à 3 points, ouais. Du mouvement en attaque. Et puis tout d'un coup, on en arrive à des discussions, je suis d'accord avec vous par rapport à ça. En plus, on a entre guillemets des joueurs de banc qui ne sont même pas encore véritables dans le match, qui commencent à s'énerver. La situation avec Kejo et Darlan, moi j'ai l'impression qu'à un moment, Darlan lui a dit quelque chose à Kejo, et alors Kejo a complètement pété un plomb.
Non, c'est vrai que Darlan lui dit un mot, il n'est pas content, l'arbitre calme, et Odysse Djoulbé qui dit un autre mot à Darlan. Et donc Darlan, en passant derrière Djoulbé, l'insulte. Donc Darlan insulte Djoulbé en passant derrière lui, et c'est ça que l'arbitre a entendu et lui a donné une petite coup.
Oh là, on passe, je ne suis pas certaine.
Et Volifula qui sauve le ballon. Nyangwek, moins d'une minute à jouer dans cette première mi-temps. Schneider.
Allez, premier shot.
À 3 points.
Quasi ouvert de Volifula.
Et Nyangwek qui nettoie le rebond quand même. On revient à cet écart de 20 points.
Il joue bien l'écart, bon. Regardez un peu le spacing qu'il y a. Il n'y a personne dans la raquette pour l'instant.
Et là, bien sûr que s'il y a quelqu'un, il y a Kejo qui fait son apparition et qui se fait évidemment arracher les bras.
Et il n'a jamais été aussi mobile, hein, Mustapha Kejo.
Alors déjà, mobile et Kejo dans la même phrase, je ne m'y attendais pas.
C'est un dessin.
Mais entre guillemets, messieurs, moi je trouve l'intensité de Wake pour l'instant, elle joue un petit peu contre lui, parce qu'il y a tout un cirque qui fait autour de ses actions. Il regarde l'arbitre, il regarde le public, etc. Ça risquerait de jouer rapidement relation sur le coup. Je vous ai dit, hein, à chaque fois c'est une grosse partie. Hein.
Alors, ce qui me fait un petit peu douter, c'est que bon, ça fait deux fois qu'il m'insulte avec la planche. Donc, peut-être que c'est ce qu'il veut faire, mais le terrain. Tout à l'heure, le deuxième lancé, il était pas du tout avec la planche. Hein. C'est quand même rigolo qu'il loupe le deuxième et pas le premier. En général, c'est plutôt l'inverse. En général, le premier, on n'est pas trop réglé, puis on met le deuxième parce qu'on s'appuie.
Oui. Et comme vous avez dit, le deuxième, il n'était pas avec la planche.
Et ça ne rentrera pas, en tout cas 53-32 à Al-Ahly, très clairement. L'aveu, cette couronne de champion de la conférence Nil. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Bangui a fait peut-être une de ses plus mauvaises premières mi-temps dans ses 6 matchs. Et va devoir cravacher pour éviter d'être derrière les Tigers en termes de points de différentiel de points. On en parlera plus tard. Et si c'est la pause en Égypte, on fait évidemment nous aussi une petite pause.
Pour Al-Ahly d'Égypte, 32 pour Bangui Sporting Club, la République Centrafricaine, 21 points donc d'écart. On a vu cette équipe centrafricaine en souffrance, Cheikh.
Absolument, Yacouba, il souffre très bien dans beaucoup de domaines, Yacouba. Le domaine du coach, comme on avait bel et bien dit, Yacouba, le coach de Al-Ahly est très très fermenté, Augustin Djoulbé Bosch, le coach espagnol. Et nous avons vu que Yacouba, il a joué toute la deuxième carte avec son banc seulement. Et puis, ils ont 10 joueurs, Yacouba, qui ont marqué des points. 10 joueurs entre les 13 joueurs. Ça veut dire qu'il y a une rotation très, très solide de cette équipe Al-Ahly. Et par contre, nous voyons la différence à l'équipe Bangui, qui a seulement 5 joueurs qui ont marqué sur ce match-là. Premier carte, premier mi-temps.
Et justement, parlant des joueurs de l'équipe de la République centrafricaine, on a vu un Thierry Darlan qui a un peu craqué. Ça aussi, ça joue contre son équipe.
Absolument, Yacouba. Il n'a que 5 points pour ce premier mi-temps. Bon, espérons bien qu'il va se retrouver au deuxième mi-temps, troisième quart-temps et quatrième quart-temps. Mais ils ont raté beaucoup, beaucoup de paniers, Yacouba, comme tu l'as suivi. Ils ont raté de 10 sur 28 sur les deux points. Ils ont raté un seul sur 12 tir à 3 points, Yakuba. Ça veut dire qu'il y a une grande différence de chute et de perte de balles aussi du côté des Bangui. Et s'ils arrivent vraiment à nettoyer ça, Yakuba, ça va être une très bonne deuxième mi-temps de ce match.
En tout cas, en termes de rebond, parlant toujours des statistiques, Bangui Sporting Club se retrouve avec seulement 19 contre 28 pour Al Ahly d'Égypte. 17 passes décisives donc pour Al Ahly, 5 seulement pour Bangui Sporting Club. Donc les statistiques parlent en faveur des Égyptiens, mes chers, on l'a vu. Cette équipe égyptienne, elle le sait, en cas de victoire centrafricaine, il y a sa place même de leader de cette conférence du Nil qui est en jeu. Et on le sent, les Égyptiens veulent coûte que coûte finir champion à domicile.
Absolument, Yakuba. Ça me rappelle de leur match de l'année passée avec les AS Douane. Et nous savons tous que toutes les et deux équipes, Yakuba, quand tu regardes ce match-là, tu vois que l'équipe Bangui est l'équipe qui est plus condition physique peut tenir mieux que cette équipe égyptienne. Mais cette équipe égyptienne est en train de vraiment damer l'équipe avec son expérience et la passe sur le terrain. Et puis, ils sont pas en train de jouer dur comme l'équipe Bangui Sport qui n'arrive pas à maintenir les points aux raquettes, mais c'est des équipes qui sont en train de battre tout le monde avec les expériences. Nous avons vu ça avec l'AS Douane l'année passée, quand ils ont battu l'équipe AS Douane qui les a fatigués beaucoup, Yakuba, comme tu te rappelles, mais ils ont joué l'expérience, ils ont essayé de faire l'équipe AS Douane les faire jouer leur jouet et les faire les marquer en défense comme ils veulent, et puis ils ont joué avec les temps jusqu'à ce qu'ils ont gagné l'équipe AS Douane. Et c'est exactement ce que moi je vois avec cette équipe. Et puis, Yakuba, si les 12, les 13 joueurs, si 10 joueurs arrivent à marquer au cerceau, ça veut dire qu'ils ont une très bonne solide équipe du banc, et puis les joueurs qui ont commencé le match. D'ailleurs, les joueurs qui ont commencé les matchs dans ce match-là n'ont pas joué plus de minutes que les bancs. Et au deuxième quart-temps, nous avons vu seulement que les bancs, à part Max Steven Leon qui l'a mis tout petit peu 2 minutes avant la fin de ce deuxième quart-temps.
Alors, Cheikh, justement, parlant toujours de cette équipe centrafricaine, elle est en retard, hein, côté point, 21 points de retard donc par rapport à Al Ahly d'Égypte qui compte 53 points alors que les centrafricains comptent seulement 32 points. Qu'est-ce que le coach François de Bangui Sporting Club devra changer en seconde mi-temps, justement?
En seconde mi-temps, Yakuba, il doit seulement nettoyer vraiment les pertes de balles inutiles et vraiment assurer les points. Et puis essayer de faire une défense qui va les faire perdre les balles aux côtés d'Al Ahly, qui va être trop difficile parce que cet Al Ahly, Yakuba, ils se connaissent très bien. Tu as vu les passes qui se sont faites dans ce premier mi-temps. Et il y a même un meneur qui a fait la passe à travers le cerceau, Yakuba. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il a chuté la balle au cerceau.
Absolument.
Ils savent que ça va rebondir sur son joueur. Ça veut dire qu'ils se connaissent entre eux. Donc cette équipe, c'est genre de truc que l'équipe Bangui est en train de faire ça physiquement en courant sur le cerceau, sur le terrain. Et puis l'énergie est là pour cette équipe de Bangui. Mais seulement, c'est ces détails-là qui doivent vraiment nettoyer pour vraiment revenir sur le match. Défense depuis. Il ne faut pas les laisser passer au milieu du terrain sans les marquer. Et puis quand vous perdez, ils perdent les balles, il faut les faire payer. Parce que quand tu fais perdre les gens les balles, Yakuba, si tu ne marques pas, ça n'a pas de points. Parce que tu as fait perdre le balle, tu n'as pas marqué, ça veut dire que tu as fait perdre du temps dans le clock, Yakuba.
Et voilà, et donc il ne faut pas perdre beaucoup de temps justement par rapport au temps, parce que jusqu'ici en tout cas, tout roule en faveur de l'équipe égyptienne d'Al Ahly ST, je le rappelle, hein, qui mène 53 à 32 pour Bangui Sporting Club de la République centrafricaine. Et on le disait en début, bien sûr, juste avant que le match ne commence, eh bien, il y a non seulement une deuxième place en jeu pour l'équipe centrafricaine, mais il y a aussi probablement une place de leader de cette conférence du Nil à aller chercher. Mais apparemment, visiblement, bien sûr, cette place de leader est loin, très loin pour l'équipe centrafricaine. Il faudra plutôt penser à accrocher peut-être une deuxième place. Et là aussi, ce n'est pas joué parce que jusqu'à ce rythme, avec ce rythme-là, Cheikh, on me dira que les Centrafricains ne vont pas le faire.
Absolument, Yakuba. Comme c'est le basket, comme on a vu, nous avons vu une équipe qui s'est séparée de plus de 20, presque 21 points, Yakuba, le premier mi-temps. Ça va être trop difficile de vraiment essayer de remonter ça au troisième quart-temps. Et puis nous avons vu que le maximum de ce point-là, Yakuba, ça vient de leur banc. Tandis que quand les coachs font les scouting reports, quand ils regardent l'autre équipe, ils se focalisent sur les 5 rentrants, Yakuba. Ils ne se focalisent pas sur les joueurs qui vont venir du banc. Donc, il y a une étude que les coachs doivent vraiment faire à travers ce mi-temps pour vraiment revenir avec une autre manière. Mais il y a des joueurs vraiment, Yakuba, très admirés dans l'équipe de Bangui. Et le Cap Kerry Weshengder qui a marqué 10 points dans leur côté. Nous avons aussi Jim Rambaye, qui tu l'appelles.
Oh ouais, Jim Rambaye quand même qui se bat. Hein. Il se bat beaucoup, ce garçon.
absolument, il se bat beaucoup pour l'équipe. Nous avons vu Thierry Dalan qui n'arrive pas très bien à se retrouver. Yacouba, nous vous rappelons les gens qu'il y a Evan Ganapamo qui le manque beaucoup aussi et à travers ce match-là, Yacouba. Et ça pouvait aussi donner une chance, mais on compte seulement sur les gens, sur les joueurs qui sont disponibles maintenant. S'il fait ce genre de changement, Yacouba, sur le, dans les locker rooms, et vraiment nettoyer les pertes de balles inutiles et les faire pression au premier, depuis qu'il soit arrivé au milieu du terrain, ça peut donner un résultat parce que cette équipe Bangui est plus agile et plus vite physiquement sur le terrain, niveau de déplacement, niveau d'énergie que cette équipe égyptienne, Yacouba.
On espère bien sûr que les Centrafricains vont reprendre du souffle, mais pas que, vont reprendre aussi beaucoup d'énergie et leur sang-froid surtout, parce que on l'a vu un chèque dans les nerfs, les Centrafricains craquent un peu parce qu'ils observent ce retard de points-là. Apparemment, ils voient les choses leur échapper et là, mentalement, il faut tenir.
Absolument, Yacouba. Il faut toujours dire que deux cartons, c'est très important, même pour 50 points, Yacouba. Les choses peuvent changer, mais côté défensif, quand même, il faut. Si tu veux remonter le score, Yacouba, si un coach veut remonter le score, c'est pas aller de marquer seulement, c'est la défense. Il faut les empêcher de marquer et toi, tu marques à l'attaque. C'est ça qu'il faut faire pour vraiment remonter ce genre de match. Si tu veux 20 points, Yacouba, c'est trop difficile de vraiment remonter même 10 points, 15 points dans ce match-là, à ce niveau, parce qu'à ce niveau, tout le monde est fatigué. Donc, la défense aussi, ça se joue sur les jambes. Moi, je vois une équipe Bangui qui est sur les jambes mieux que cette équipe Al Ahly Sportif.
En tout cas, une équipe de Bangui suit les gens, mais pour le moment, en tout cas, au score, eh bien, c'est bien Al Ahly qui est devant. Cette équipe égyptienne, quoi qu'on dise, on voit qu'elle est en quelque sorte en mission, remporter les matchs de cette conférence Nil-là, et elle se positionne aussi comme une candidate sérieuse pour le titre final.
Absolument, Yacouba. Comme je l'ai bel et bien dit, tu vois, sur les 13 joueurs, il y a 10 joueurs qui ont marqué, Yacouba. Et puis, ils ont joué toutes les deuxièmes cartons, la deuxième carton avec les bancs. Ce n'est même pas les joueurs qui ont commencé le match et qui sont arrivés à vraiment creuser l'écart comme ça. Ça veut dire que cette équipe en mission, Yacouba, malgré qu'ils ont perdu des joueurs comme Nouni l'année passée, mais ils ont renforcé Nouni avec Mark Steven Lyon, le meneur américain de 34 ans ici, Yacouba, avec eux, et qui a beaucoup d'expérience aussi, d'ailleurs, qui a 8 points. C'est lui-même la tête de serpent de cette équipe, Yacouba, qui connaît tout le monde, et qui est en train de vraiment gérer le banc et les gens qui ont commencé le match. Donc cette équipe, Yacouba, c'est une équipe qui est en mission, et puis cette équipe est très bien coachée, et le coach est très, très fort, Yacouba. Il est en mesure de vraiment voir la faiblesse de son équipe et les points forts de l'équipe adverse et les points faibles de l'équipe adverse, Yacouba. Ça compte beaucoup sur le terrain. Espérons bien qu'ils vont nettoyer les choses. Mais cette équipe, quand même, a montré qu'ils sont les champions en titre, Yacouba.
En tout cas, on espère voir du beau jeu en seconde mi-temps. Nous allons tout de suite commencer le troisième quart-temps. Sims, c'est encore les commentaires, mais si vous êtes prêts, bien sûr, on ira tout de suite du côté du Caire au complexe Hassan Mustapha pour suivre ce troisième quart-temps et donc le début de cette deuxième mi-temps entre Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine, pour le moment troisième de la conférence du Nil, et Al Ahly du Caire qui jusqu'ici est premier de sa conférence.
Ça permet d'évaluer aussi les adversaires parce qu'on a vu le Petro se faire... Oui, par une équipe de quelqu'un qui était complètement décimée, enfin, qu'on pensait être complètement décimée parce qu'ils ont été chercher le match. Il faut faire attention quand vous êtes malgré tout supposé être le teneur du groupe, vous faites partie des deux meilleurs joueurs comme les deux Al Ahly l'étaient ici. Il y a des équipes qui se préparent et qui veulent votre peau, donc tout peut arriver. Je trouve que cette équipe Al Ahly a tout pour gagner, mais je ne les mettrai pas en titre de favori comme on voit les deux autres équipes qui sont qualifiées de l'autre côté.
On va parler de Rabat et le Petro de Luanda.
Ça va juste jouer sur 40 minutes de basket point à la ligne.
Elle nous a quand même montré de très belles choses, hein, cette équipe égyptienne qui est tenant du titre, on le rappelle. Il y aura bien sûr une dernière conférence qui débutera la semaine prochaine. Dans une semaine tout pile, on aura déjà commenté quelques matchs, mon cher Jacques. Il y aura de très belles équipes également dans cette conférence.
Et on verra s'il n'a pas mangé de dessert.
Et on verra s'il n'a pas... Alors là, Malik, désolé de vous spoiler, mais je peux vous dire qu'il en aura mangé et beaucoup.
J'en mange, moi, quand je suis à la maison.
En tout cas, Malik, c'est un peu la question que je vous ai posée lors de l'autre match. Mais il y a de belles équipes cette année. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le niveau est peut-être plus homogène que les années d'avant?
Oui, il est beaucoup plus homogène parce que
les équipes recrutent mieux, les équipes scoutent mieux aussi. Ça c'est important, et puis il faut dire que les joueurs eux-mêmes progressent, parce que quand on regarde aujourd'hui les locaux d'Al Ahly, les joueurs égyptiens, on les voit en gros progrès. Un joueur comme Moeb, on le découvre ce soir parce qu'il n'avait pas de temps de jeu, mais ça reste un très bon joueur de basket. Voilà, pour dire que petit à petit le gap entre les très forts et les moyens va se réduire, parce que l'homogénéité est en train de s'installer.
Ah, vous avez raison Malik, et puis surtout on voit que les équipes recrutent de plus en plus lourd, ils vont chercher leurs joueurs locaux les plus forts, les plus puissants, etc. Et c'est toujours bien sûr dans le bien de cette Basketball Africa League. Nous en tout cas on va faire une dernière petite pause et on reviendra pour la dernière mi-temps de cette conférence Nîmes.
Voilà, on attend juste toujours le début de ce troisième quart-temps et donc de cette deuxième mi-temps entre Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine et Al Ahly d'Égypte qui mène 53 à 32. Je sais que Cheikh Tiro est toujours en ligne, mais Cheikh, en attendant, on va revenir sur les statistiques. Justement, en termes de points, on le voit de part et d'autre. C'est même Curry, Wexhider qui mène avec 10 points, contrairement par exemple du côté d'Al Ahly d'Égypte où le meilleur marqué jusqu'ici à 8 points, il s'agit bien sûr de Steven Lyons suivi de Omar Orabi, 8 points également. Et donc, c'est dire que dans cette équipe égyptienne, comme tu l'as dit, eh bien, du banc jusqu'aux 5 majeurs, tout le monde est capable d'apporter sa touche et c'est ce qui aussi fait la force d'Al Ahly d'Égypte.
Absolument, Yacouba. C'est une équipe qui joue et puis qui se connaît très bien, Yacouba. Moi, j'ai vu un jeu de technique sur cette équipe. Ils savent où sont les joueurs, ils savent les trouver pour les passer la balle. Et puis, ils savent donner la personne qui est ouverte pour marquer le point, Yacouba. Ça veut dire qu'ils se connaissent beaucoup et puis ils ont une tradition de vraiment se connaître sur le terrain beaucoup. Et parce que il y a des passes que moi-même j'ai vues. Si tu connais pas ton joueur, tu vas pas faire ces passes-là parce que tu sais très bien qu'il va rattraper. Mais je pense que Yacouba, comme tu l'as tout dit, cette équipe, ils sont trop solides du banc jusqu'aux joueurs qui ont commencé. On voit le contraire avec cette équipe de Bangui qui a seulement 5 joueurs. S'il passe 6 joueurs qui ont seulement arrivé à marquer au moins 2 points sur le match, trop différent de cette équipe de Al Ahly. Yacouba, tu as rappelé aussi les cours sur le terrain que Bangui Sportif peut faire en match. Cette équipe Al Ahly fait ça en passe. Si je passe, ça peut donner un sens, quoi.
Il y a un sens profond à ce que tu dis, bien sûr.
Voilà, absolument. Les efforts que cette équipe Bangui est en train de faire en courant sur le terrain, cette équipe Al Ahly est en mesure de faire ça par les passes sans se déplacer. C'est ce jeu-là que moi je vois avec cette équipe Al Ahly. S'ils sont comme ça, ils savent très bien connecter comment les points A à B et C et pour vraiment arriver à une destination finale qui est dans les cerceaux. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous voyons cette équipe Bangui Sportif qui est très très jeune. Yacouba, nous avons vu, ils ont de l'énergie, ils sont très rapides plus que cette équipe Al Ahly. Mais cette équipe Al Ahly est vraiment en train de jouer une expérience de basketball qu'ils n'ont pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh. Le jeu donc a repris pour le début de ce troisième quart-temps. On y va tout de suite du côté d'Ike.
Il est venu faire un check avec ses partenaires sur le banc et il leur a dit believe it, faut y croire.
Amine.
Oh là, il a peut-être déjà fermé en dribble. C'est bien, c'est courir qu'il faut. Oh ben voilà, l'opportunité en 2 contre 1. Jim Rabai. Oh, il n'y a pas de faute. Ah voilà. On avait rarement vu Jim Rabai courir aussi vite. Et il répond toujours oui en fait à tous les challenges Jim Rabai. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il a été entouré de coéquipiers qui ont eu du mal. C'est lui qui a ouvert avec des 3 points, des 2 points, etc. On l'a vu agressif. Et là on voit encore une fois qu'au niveau mental, il est toujours émotionnel là où il faut.
Émotionnel, il est toujours là où il faut. Et physiquement, il est sous la ligne de lancer franc.
Tout à fait.
Et il reste en premier malheureusement. Avec ce qu'elle nous a montré, alors bien sûr, c'est pas très dans l'esprit, je voudrais dire, c'est plus dans l'émotion, mais avec ce qu'elle nous a montré, cette équipe de Bangui, on n'a pas envie qu'elle soit le moins bon troisième des trois. On a envie qu'elle soit au play de Kigali. Alors il va falloir le mériter, je vous entends. Mais on a envie quand même qu'elle se remue et qu'elle y soit.
Parce qu'on sait aussi qu'au niveau de l'effectif, ils ont été extrêmement diminués. On a envie de les voir aller à la prochaine étape. On a envie de les voir avec les joueurs qui leur manquent. Je pense qu'il y a une équipe qui peut faire du mal à beaucoup de poids lourds. Donc voilà.
Et ça lit, ah, ça va rentrer à 3 points, ça va faire mal.
Ouais, il recommence directement.
Ouais, l'écart il est quand même énorme hein, entre les deux équipes ce soir. Darman tente le rebond pour Jim Rabai. Ils vont sortir. Aïe, 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 Mitchell qui récupère le ballon. Il y a Bami, bien joué. Westsider encore une fois, mais il ne pourra pas par contre partir au panier derrière.
Quel boule quand même d'intensité, de puissant Westsider. Souvent sur des 50-50 comme ça, il arrive à prendre l'avantage. Et une fois qu'il a lancé en contre-attaque, il y a peu de gens. Malgré qu'Amin soit rapide, il y a peu de gens qui peuvent le rattraper.
Points, 4 passes, 2 rebonds, 3 interceptions pour Wickshider en 17 minutes ce soir. Amine Prince Ali qui vient d'en mettre un et qui en met un deuxième. Oh là 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 là. Ça fait 59-33 maintenant, ça commence à être très 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 compliqué pour Bangui.
Ouh, les Égyptiens qui continuent à jouer juste, mais encore une fois, je me demande où est-ce qu'a été la défense. Sur le shot, il y avait pas une main en l'air pour contester.
Ngangal fait face à Orabi. Ah, il marché, bien sûr.
Alors là où Ngafei avait été capable, avec Malouak, il a été capable, malgré le poids de Malouak et sa présence, il était capable de le bousculer à l'intérieur, mais Orabi il a quelques kilos en trop et je vais vous dire, Orabi est tellement peu mobile que c'est difficile de le faire bouger.
Et lui qui n'est pas habitué à jouer, il a tellement joué aussi hier qu'il a peut-être du mal à récupérer.
Peut-être aussi c'est vrai, Mitchell à 3 points. Oh là 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 là, les 3 réussis d'une distance par contre qui font extrêmement mal à Bangui d'entrer dans ce troisième carton. C'est un run d'entrée réalisé par Alali, on a un temps mort après. Seulement 2 petites minutes dans ce troisième carton et la situation devient quasiment inespérée maintenant pour les joueurs de Bangui, sans mort dans cette rencontre.
Kagera National Park, it's a lot of the big five. I fell in love in Kigali. People like to enjoy life.
This was my dream since I was a kid, working with the gorillas every day.
There is something really magical about Lungwe National Forest. This is our little piece of heaven.
Rwanda is the place that everybody should really visit.
Welcome to Rwanda.
Welcome to Rwanda. Nous n'y sommes pas pour le moment. Nous sommes du côté de la conférence du Nil qui dispute donc ses matchs au Caire en Égypte. Le Rwanda, ce sera du 24 mai au 1er juin. Merci à tous hein, de nous faire l'amitié d'être à l'écoute de ce match ou encore des commentaires qui suivent bien sûr ce match entre Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine et Al Ahly d'Égypte qui s'impose en tout cas pour le moment et qui montre hein, dans le jeu qu'il est bel et bien le champion en titre, 62 points. Pour les Égyptiens, 33 seulement pour les Centrafricains. Le match qui échappe toujours hein, au Centrafricain. Difficile de revenir sans un garçon comme Evans Ganapamo. Thierry Darlan qui est en perte de vitesse et qui a même pris une faute technique. Et donc, c'est dire que cette équipe centrafricaine est débordée, elle est dépassée par ce qui se passe sur le terrain. En termes de points, c'est toujours Prince Adams Ali de Al Ahly d'Égypte donc, qui mène avec 11 points contre 10 points pour Curry Whiteside. Cette différence de points assez flatteuse, hein, parce que beaucoup de joueurs du côté d'Al Ahly, bien sûr, score. Et on repart tout de suite du côté du Caire où le jeu a repris.
Bonne foule à mi-distance. Et Orami qui récupère le rebond. Nickel.
Alors j'ai vu des attitudes hein, pendant le temps mort de François Inyembe, des expressions corporelles, des expressions faciales qui malheureusement ne sont pas très positives du côté du BSC.
Ah ben ils sont complètement battus de toute façon. Rolly Foula, enfin Rolly Foula qui avec ce panier double son total de points ce soir.
Il n'a pas eu, lui comme Thierry Darlan, ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Alors on va voir sur la défense de zone, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire ne plus que ralentir parce que oh, coach Ningué, c'est un coach qui adore la défense.
Ah, c'est super, ouais. Franchement, c'est superbe la passe d'Amin. Ensuite, c'est intérieur-extérieur pour Abou El Nasser.
Oui, là, et là, le coach Ningué ne doit pas être bien parce qu'avec cette défense-là.
Ngarsay s'attaque au Rabi, il y aura la faute de Rabi. On va retrouver Megan Gaifrey sur la ligne de lancer franc maintenant. 30 points d'écart. On rappelle qu'ils ne doivent pas perdre de plus de 16. Il y a 14 points à remonter pour Bangui.
Allez, tout ce qu'on peut prendre va être assez important, mais c'est surtout prendre un rythme en défense. Je le disais au tout début du match, si vous n'avez pas des stops, si vous ne contrôlez pas le rebond défensif, vous n'êtes pas capable de développer le basket que vous avez envie, vous n'avez pas vraiment de contre-attaque. Bangui aujourd'hui n'a quasi pas eu de contre-attaque par rapport aux autres matchs.
Par rapport aux autres matchs, il y en a eu quelques-unes par rapport aux interceptions de Wexheider, mais c'est vrai que vous avez raison, il y a eu un petit peu moins d'habitude.
Ah, combien de fois on a vu Thierry Darlan pousser le ballon arriver à l'intérieur de la raquette.
Oui, il faut que les appuis, il monte tout droit, et ça c'est beau quand même, quand il fait ça, Wexheider.
C'est vraiment son basket, hein, Wexheider, ce petit shot mi-distance.
On dit souvent, hein, mais je reste un grand admirateur de ces joueurs capables de mettre ces shoots à mi-distance. Est-ce que vous avez vu acquiescer Malik d'ailleurs aussi?
Non, mais j'étais en train de regarder une discussion entre un des assistants d'Auguste Gouldé et Ruben Benjovunje. Il est parti lui demander combien de points il faut qu'il marque pour être le premier des deux conférences. Donc pour dire qu'ils ne vont pas ralentir la cadence.
Non, ça c'est certain.
Ils ont bien raison d'être consciencieux par rapport à ça.
Ah oui, parce que ça aide hein, sur le tirage au sort.
Tout à fait.
Alors c'est d'ailleurs, pour être tout à fait précis, c'est pas un tirage au sort non plus. Hein. C'est en fonction, bien sûr, du nombre de victoires qu'on a. Ensuite, la différentielle de points. Ali a 3 points et ils vont continuer à se baquer. C'est le sport, de toute façon, ils ont totalement raison de le faire. Darlan. Oula. La fin de end-off.
Ah, difficile.
Pas terminé, Gaxey. Darlan Karchenchouk tout seul, c'est une des rares fois où il est tout seul à 3 points.
Ah, il a eu le temps de prendre son rythme en plus, il a perdu sa chaussure, c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un qui perd sa chaussure. Alors je sais pas ce qu'il espère se faire sans sa chaussure, mais bon écoutez, on va voir.
Et Darlan,
mais il a besoin de sa chaussure quand même.
Et attention, et il est à 100% sans se pencher sa chaussure, j'arrive pas à le dire, mais en tout cas vous comprenez.
J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un du public qui s'est enfui avec sa deuxième chaussure parce qu'il risque d'être en gros problème.
Il faut peut-être qu'il enlève la deuxième, il sera peut-être encore meilleur. Et il va peut-être
Mais il peut se blesser, c'est très très dangereux.
Mais oui, c'est très dangereux, je comprends pas.
Et il s'assoit par terre, bien sûr, on va attendre quand même, c'est normal qu'on attende pour qu'il mette sa chaussure. C'est quand même incroyable,
points.
C'est incroyable quand même qu'il soit à 100% sa chaussure.
Mais
où, 2 sur 2.
Mais où est la défense?
Ils ont fait un run grâce au manque de chaussures de Darlan.
Alors monsieur, ce que je vous disais, hein, je suis en train de regarder discrètement sur le téléphone portable de cet assistant. Il a les écarts en temps réel avec le fus de Rabat.
Le fus de Rabat avait plus 41 dans la conférence de Kalahari. Et on rappelle qu'il va falloir enlever les 23 points que les Égyptiens avaient mis à cette équipe des City Oilers, parce qu'on rappelle que les matchs de 4e ne compteront plus. Ce qui veut dire qu'à peu près, approximativement, j'ai pas le calcul en tête, mais avec les 20 points qu'il y a, ils sont à plus 50. Là, honnêtement, ils sont quasiment assurés d'être à au moins à 10 points facilement au-dessus du fils de Rabat. Mickaël.
Oh, tout à fait ouvert, ce petit jump shot, Rabat en plus. Mais regardez, elle commence à courir. Le rebond n'était pas net, mais il est dans les mains.
Darlan, il y aura le coup de sifflet contre Tony Mitchell.
Vous voyez, quand ils ont l'opportunité, alors je ne vais pas dire défendre, mais ils ont eu le rebond au moins de courir. C'est une équipe qui est différente.
L'analyse vidéo d'Al Ali a fait du bon travail, parce que je peux vous dire que Rolly Foula a du mal à trouver son rythme en termes de shooting.
Alors, il a du mal à trouver son rythme, je crois que c'est même pire que ça, c'est qu'il n'a aucun rythme ce soir. Pour l'instant, c'est 4 points, 2 paniers seulement inscrits.
Regardez, là, il va perdre sa chaussure, et puis ce qui est rare, c'est qu'il l'envoie dans le public.
Et Abamin.
Ouais, c'est en défense qui peut être percutant maintenant. Faire la rotation. Alors, ça, c'est un 3 points qui a été bien couvert, qui a été bien contesté.
Il y aura la faute offensive sifflée contre Ea et Abamin, me semble-t-il.
Alors je veux juste dire que les 16 points, on n'en est plus très très loin. 67-46. Il y a un moment, on était à 62-33. On est passé à 67-46. Et bien les 16 points, on s'en rapproche.
L'épisode de la chaussure a fait du bien.
Exactement. Qui aurait cru?
Il y aura peut-être un shoegate. Effectivement, on en parlera peut-être. Et Omega Space qui a porté le point de plus.
Voilà, et l'énergie qui a un petit peu changé de côté. C'est en défense. Voilà, belle passe.
Il a banni la fin de regard. Et à 3 points, ça ne rentre pas. Darlan qui se bagarre bien en rebond.
Un bon rebond de Darlan. Il a dû être combatif. Ouh, il est pas mal peut-être sur ce
coup-là. Elle est un petit peu longue, c'est dommage.
Allez, c'est dans l'idée n'est pas mauvaise, le rythme n'est pas mauvais, ils ont pris le rebond, Darlan était combatif. 64-48, on est à 19 points, on est à un panier.
Un panier, effectivement, d'avoir le meilleur différentiel de points que les
Tigers. Il y a 10 minutes, on en était loin, on avait quasi 30 points d'avance.
Et Abamin, ça va rentrer, voilà, pour les Égyptiens,
je suis pas certain, peut-être une défense d'homme maintenant, parce qu'il semblerait que les Égyptiens soient retrouvés à 3 points, je crois pas seulement de celle-ci, mais il y a plusieurs passes qui ont été bien lancées.
Gaïfei qui passe les bras et qui ne peut pas finir. Bonne défense de la part de Mitchell sans faire de faute. En tout cas, ça ne sera pas signalé.
Faut arrêter le ballon.
Et le ballon est perdu. Je le trouve un petit peu facile, Mitchell. Un petit peu la faute de défense.
Et les deux points alors.
Et la faute derrière de Lyons. Je le trouve il joue un petit peu à la baballe, Tony Mitchell, depuis le début de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'il y a des comportements.
Il est très joyeux, il est très relax. Ouais, là, je suis d'accord, il y avait, c'est bien appelé parce qu'il y avait vraiment faute de Lyons. Il a commencé à. Il a commencé à s'emballer un petit peu trop tôt dans le match. C'est pour ça que quand on parlait du retour, vous avez souvent une équipe quand vous gagnez 20 points, 25 points qui va se relaxer, et une équipe qui va jouer avec beaucoup plus d'ego, avec beaucoup plus d'envie, de passion.
Ah, c'est clair que les objectifs sont différents. Hein. Une équipe qui va finir leader et puis l'autre qui a envie de se qualifier.
On rappelle que les deux équipes, on se rappelle déjà que Al Ahly d'Égypte est déjà qualifié, évidemment. Mais que Bangui peut aussi se qualifier ce soir. Ouh là. Jumrabaï à 3 points.
Un peu court, un peu court.
Rebond pour Ali. 2 minutes à jouer dans ce troisième carton. Amine à 3 points. Et Rolifula qui va donner du rythme. Et est-ce qu'il peut aller en cause tout?
Bien sûr. Oh, il n'y a pas de faute.
Ouh, c'est bon. Oh là là là.
Et on, alors on est évidemment complètement neutre, mais on voit Jim Rabai, Darlan, ils sont tous.
Et alors, Jim Rabai qui se retourne, qui regarde le Jumbotron, parce que pour lui, il y a absolument
la défense n'est pas mauvaise de Lions.
Non, il y a même le coude de l'attaquant sur le menton.
Alors, screen every screen.
Spider.
Bonne défense de Kejo. Non, il n'y a rien, c'est du bon basket.
Prince Ali qui monte au dunk.
Oh, il est léger sur ses pieds, hein. Ali derrière les 3 points en contre-attaque rapide, vif. Il fait toujours son petit match sans trop, sans ennuyer personne, hein, sans discuter.
Voilà, une journée au boulot tranquille.
Et pour les jeunes joueurs, c'est un modèle de pas zéro.
Et Amine, Mark Lyon.
Un pari pour celle-là.
Oh, la très peine. Bonne passe décisive pour Kejo.
Qui est pas mécontent d'en profiter. Regardez le rythme, hein, du côté de Bangui. GST, ça veut dire première passe engagée sur des écrans, sur du mouvement.
Gaïfei. Aïe.
Le pied de pivot a bougé.
Regardez la vitesse à laquelle cette action va se passer. Amine, un dribble, pas de dribble de l'autre côté, donc un dribble. On a une action qui s'est probablement passée en 3 secondes. Ça a été extrêmement vite.
Secondes à jouer dans ce troisième carton. Amine qui va ressortir, Mark Lyons à 3 points. Kejo, peut-être le rebond, non, ça s'approche Jim Rabat, il a longue passe. Ouh, bien joué, Mark Lyons qui avait tout senti.
Elle est intelligente, Jim Rabat, hein, parce que vous savez, quand vous êtes un big man, il y a certains big men qui prennent les ballons, qui prennent les rebonds et qui ont besoin que le garde vienne les chercher dans les mains parce qu'ils n'ont pas cette aptitude, cette vision du jeu. Il y a beaucoup de contacts sur cette action-là. Et puis il y en a d'autres comme Jim Rabat qui sentent le jeu, qui savent qui est parti déjà, qui sont capables de faire cette longue passe.
Et Chaïdur dans son jardin, évidemment, mais l'histoire, ça rentre. On revient à cet écart de 21 points. Il faut gratter encore 5 points pour Bangui. Et Mark Lyons.
Il était court au premier, il est un peu long au deuxième.
Et Darlan, qui ne mettra pas ce coup, quoi qu'il arrive, 74-53 à la liste, se dirige vers la première place de cette conférence Nil. Mais Bangui doit continuer à réduire l'écart pour être parmi les deux meilleurs troisièmes, ou en tout cas être déjà devant les Tigers dans la conférence Kalahari. Ça sera l'intérêt de ce quatrième carton qui débutera après une dernière petite pause. Restez bien avec nous, évidemment.
Points pour Al Ahly d'Égypte, 53 pour Bangui Sporting Club de la République centrafricaine, on le connaît. L'enjeu pour les Égyptiens, c'est de finir en tête de cette conférence du Nil, et pour le moment, ils y sont. Par contre, du côté de Bangui SC, eh bien, l'enjeu, c'est de réduire le maximum l'écart donc, de la défaite. 16 points seraient pas mal, hein, pour les centrafricains, qui guettent sans doute cette place de meilleur troisième pour espérer participer au play-off du côté de Kigali. Chek, est-ce qu'au regard de ce troisième carton, on pourrait dire que les Centrafricains se sont un tout petit peu réveillés?
Absolument, Yacouba, ils se sont un tout petit peu réveillés. Ben, même quand tu regardes les 3-4 minutes du match, nous voyons une jeu très très compétitive, Yacouba. Et à un point, ils étaient arrivés à même à 30 points d'écart, mais ils ont réduit un moment jusqu'à 19 points. et nous avons vu que Darlin Thierry qui s'est bien réveillé et puis qui est en train de rentrer dans son jeu un peu Yakuba, ils arrivent vraiment à les empêcher à faire les tirs à 3 points, parce que cette équipe est très bien Yakuba à la ligne. Nous avons vu, ils ont fait toute la troisième carton avec leurs titulaires Yakuba, les joueurs qui ont commencé le match et qui sont trop talentueux, qui sont là pour vraiment terminer le match. S'ils arrivent vraiment à les empêcher à marquer des tirs à 3 points et puis les limiter au lancer franc ou bien des 2 points, Yakuba, et il y a une chance de vraiment revenir au jeu des 5 premières prochaines minutes du 4e carton.
Et on le sait, on va juste rappeler que le premier carton a été enlevé par Al-Ahly d'Égypte 28-15, le second toujours Al-Ahly 25-17. Et cette fois-ci, pour le 3e carton, c'est jeu égal 21 points partout. Et donc, c'est dire que cette équipe centrafricaine s'est réveillée, Cheikh l'a dit. Il reste encore un dernier carton, 10 minutes donc à jouer, 10 minutes d'espoir pour les centrafricains, mais aussi d'espoir pour les Égyptiens, qui veulent finir, bien sûr, en beauté cette conférence du Nil. On y va tout de suite du côté du Caire.
Outsider.
Superbe feinte. Qui continue.
Ah, puisque j'ai oublié de demander un marché. On revient sur le carton de 19 points.
Bonne défense sur le Gandhi. Attention, pas laissé. Gardner, on sait qu'il aime bien ça.
Et le ballon va être rendu aux Égyptiens. Marc Lyon, tout seul à 3 points. Oh, il fait mal celui-là.
Oh là là, qu'est-ce qu'il était loin ce shot. Justement, comme on a l'impression que Bangui est capable de faire avoir un véritable stop.
Ça fait 11 points maintenant pour Marc Lyon. Wilkshider, Darlan. Ça, c'est encore une fois loupé par Darlan. Il n'a pas beaucoup d'adresse aujourd'hui, décidément. Ça fait 4 sur 17 maintenant pour Thierry Darlan. Lyon.
Regardez là. Oh, elle est dame. Ouais.
Ça fait 2 fois que Lyon est sur le retour comme ça.
Ouais, et ça manquait d'angle. Elle est très trop plate, trop directe cette passe.
On regarde Gaël Fay. Rolifoula à 3 points. Toujours pas d'adresse pour Rolifoula. Longue distance aujourd'hui. 0 sur 5 maintenant.
Ah, c'est au pire des moments, quoique écoutez, ils ont été chercher des grosses victoires. Grâce au shot de 3 points, toutes les victoires ont été importantes. Mais c'est dommage que ce soir il n'arrive pas à le retrouver. Et puis il n'y a pas vraiment d'attaque qui permet de le mettre en position.
Et marché en tout cas sifflé.
Alors messieurs, à propos des replis de Marc Lyons, il applique la règle des 3 R. C'est-à-dire après un tir, rebond offensif, repli défensif, ou si on ne fait pas les deux, ben, retour sur le banc.
Je m'y attendais pas à celle-là.
Il faut toujours actif après un tir.
En tout cas, Kamayengui est de retour sur le parquet. Il a fait un premier passage assez quelconque en première mi-temps. J'ai même presque envie de dire qu'il aura fait un passage quelconque dans cette conférence. Malheureusement, on sait que c'est un jeune joueur, 19 ans, qui a encore beaucoup trop de choses à apprendre, qui a déjà beaucoup de talent, évidemment. Qui a semblé parfois souffrir un peu du rythme de la compétition et surtout de l'agressivité des défenses. Au match aller, il avait vraiment galéré.
Est-ce qu'il a besoin, en fait, de comprendre comment utiliser sa vitesse et surtout comprendre qu'il n'a pas besoin de à chaque fois faire le jeu. Il peut juste entamer l'attaque. Permet à son reste d'équipe de le mettre lui en valeur au lieu de dribbler. Ce que moi j'avais un petit peu contre lui, c'est que je trouvais qu'il dribblait un petit peu beaucoup avant d'enclencher une attaque.
Voilà. L'écran de Gaël Fay à 3 points. Ouh. Thierry Darlan, ça ne rentre pas. Gaël Fay qui récupère le rebond. Deuxième chance pour Bangui. Poula qui prend un shoot contesté, ça ne rentre toujours pas, ça rentrait ça dans les 5 premiers matchs.
On a eu des gros shots comme ça. Je trouve que c'est une gaffe sur le rebond, j'aime bien sa présence, mais il faut qu'il continue à agresser les intérieurs du côté d'Adali, parce qu'arriver au lancer franc, les amener à 5 fautes, c'est toutes des choses qui peuvent jouer dans une fin de match où on essaie de tomber en dessous de la barre des 16 points.
4 secondes, Morail pousse la 3 points.
Bien joué, les Lions.
Ça ne rentre pas. Akeju récupère le rebond offensif. Gardner, la feinte. Et Akeju, une fois, deux fois.
Il est dominant, Akeju.
Et il tombe.
Il est dominant au rebond.
Vous avez compris, il a 2000 ans, je lui dis. Qu'est-ce qu'il raconte?
Et ça alors voilà, Rolly Foula.
Rolly Foula.
Il est aussi vieux que les pyramides.
Il fait quand même pas si vieux que ça, quand même.
On n'en est pas loin. C'est un match qui se joue à 4 points. Réellement, quand vous regardez les objectifs pour cette équipe de Bangui, on en est à 3 paniers maintenant. Il y a un des paniers à 3 points.
Darlan à 3 points. Toujours pas d'adresse. Gardner qui récupère le rebond. Ils sont un peu en faillite hein, de toute façon collectivement.
Ouais, et là, au niveau des attaques, c'est maigre.
Lions, l'extrapasse, Morail, qui vient d'un fait deux.
Vous avez vu comment il partage le ballon, Lions?
Ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal.
Il partage le ballon, il joue en équipe, il a du plaisir pour ses coéquipiers. Et il est vraiment là pour le groupe.
Et Jimmy Rambaï qui vient de réclamer à son coach un changement de défense parce qu'ils prennent l'eau sur la zone. Il demande qu'on repasse en individuel.
Rolly Foula à nouveau, pas plus d'adresse. Megan Gaifei, et il y aura la faute.
La plus grosse erreur qu'on pourrait avoir maintenant du côté de Thierry Darlan et Rolly Foula qui ont été exceptionnels pendant toute cette conférence, c'est de vouloir à ce moment-ci faire la différence à eux-mêmes, de plus jouer en équipe. Il faut absolument retrouver un fonds de commerce dans le groupe, avoir un mouvement et attaquer.
Je suis d'accord Jacques, le souci c'est que Foula et Jim Rabat ils sont pas sortis aujourd'hui. J'ai l'impression que Foula il a été exceptionnel hein, alors pendant 5 matchs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui
en pensant au match d'hier qu'ils ont dû avoir, ouais. C'était un match, tous les matchs qu'ils ont eu sur ces 3 derniers matchs ont été exceptionnellement importants, donc c'est très très compliqué pour eux. Mais d'où parfois demander à son équipe de faire le boulot, pénétrer, je serai passé à 3 points, faites-moi confiance.
Kamayenge.
Rolly Foula qui amène son défenseur du côté de Gaffey.
Il voilà, bien joué.
C'est exactement comme ça qu'il a travaillé les Oilers hier.
Alors, Saran a remplacé Keju et c'est forcément plus facile pour Megan Gaifei. Elle vient dit. Sur sa petite main gauche, évidemment, le flotteur, ça va rentrer.
Alors, la richesse hein, de cette équipe. Hein. Là, on a 5 Égyptiens sur le parquet.
Hein. Absolument. Oh, Gamayenge qui va perdre le ballon, qui va offrir malheureusement 2 points faciles. Oh là 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 là, le layup manqué d'El Ghizaoui 2 fois.
Ah, il a eu du mal, il voulait dunker, je pense. Il a eu du mal sur son genou gauche quand il a poussé, ça n'a pas été fluide. Et du coup, la finition est passée complètement à côté.
On va avoir un temps mort, 84-59. Il va rester un peu moins de 5 minutes, mais on sent pas que cette équipe de Bangui est vraiment capable de revenir sous les 16 points d'écart, ce qui est vraiment leur objectif. En tout cas, nouveau temps mort dans cette rencontre.
Encore 5 minutes 26 secondes exactement à jouer dans ce match entre Al Ahly d'Égypte qui tient sa rencontre, la dernière de cette conférence du Nil, et qui mène donc avec plus de 20 points d'écart, 84-59 donc pour les Égyptiens. Cheikh, les carottes semblent un peu cuites hein, pour l'équipe centrafricaine.
Absolument, Yacouba, ça va être trop difficile de vraiment remonter 20 points à moins de 4 secondes, c'est tout le match.
Une match 20 points, 25
comme ça à la maison, ça va être difficile.
Alors, est-ce que du côté de la République centrafricaine, il y a encore quelque chose à faire? Parce qu'on sent que Foula a l'habitude de mettre les 3 points aujourd'hui. C'est très difficile pour lui. Thierry Darlan, il sait comme il peut, c'est pas du tout évident. On sent que, est-ce que ce n'est pas la fatigue au bout de compte?
Bon, c'est pas la fatigue sur Yacouba. Ils ont fait des erreurs au moment du match qu'on ne devait pas faire des erreurs. Ils marquaient beaucoup, ils rataient beaucoup de points.
Ils sont mal rentrés dans la rencontre.
Contre un banc. Et il fallait savoir que tu étais contre un banc. C'est vraiment assurer tes points pour élever les scores. Mais ils n'ont pas pris l'avantage de cette opportunité. Et puis, c'est trop difficile de rattraper à la dernière minute comme ça, Yacouba.
En tout cas, c'est difficile hein, de rattraper quand même à la dernière minute, comme Cheikh le dit. Parce que jusqu'ici,
Lorsqu'on regarde un peu les statistiques, côté 2 points, c'est Alali qui mène bien sûr 18 tirs réussis sur 30-60%, donc, alors que Bangui est à 19 sur 45-42%. Pour les 3 points, c'est très maigre hein, pour les Centrafricains. 2 shoots à 3 points réussis sur 21 tentatives, seulement donc 9%. Alors que du côté d'Alali, c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est pas rien. 13 réussis donc sur 39-33%. Du côté des lancers francs, eh bien, c'est du 15 sur 17 pour Bangui, mais en tout cas, pas mal. Alors que Alali est à 9 sur 13, donc 69%. Au moment même où, du côté du Caire, ça repart hein, pour les 5 dernières minutes de ce dernier match de la conférence du Nil entre Bangui Sporting Club, la République Centrafricaine et Alali d'Égypte.
Il en faut 27 points d'écart, je faut que j'arrête de compter.
Non, 27 points d'écart, il en faut 11 pour arriver à 16. Pour une fois, vous avez raison, pour une fois, vous avez raison.
Comment je me fais pas confiance. C'est fou, hein.
Ah, dommage, Jim Rabai.
Le ballon sera encore pour eux.
Allez, il faudrait vraiment 2-3 minutes de perfection du côté de Bangui pour revenir sur le score. Il n'y a pas beaucoup de scoreurs sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de créateurs sur le terrain. Il y a plutôt quelques finisseurs, Jim Rabai, dommage. Il a vraiment fait le plus difficile et c'était le bon mouvement. C'est dommage. La question est comment est-ce qu'on va être capable de scorer alors qu'on n'a pas beaucoup de monde qui est capable de créer, de mettre le ballon au sol.
C'est déjà oui, ça rame. Le spin nouveau, c'est difficile. On va vous récupérer Pangai Fei.
De toute façon, à 4 minutes de la fin, avec un Darlan à 3 points, autant prendre le risque de le ramener.
Ah oui, sans aucun souci. Surtout qu'on sait que là, maintenant, c'est la survie dans cette conférence qui est en jeu. Dans cette saison, même carrément, elle n'en bat, il y a 3 points. On n'a quasiment pas vu Nyangwek également de la deuxième mi-temps qui a 4 fautes. Kamayenge qui récupère un ballon, il y a un 3 contre 1 à jouer. Nambaye. Oh là là, qu'est-ce que c'est confus.
Ah,
oh,
mais on s'entraide.
Cette action ne sera pas dans le top 5 demain, messieurs.
Je vous explique, Kamayenge ne pouvait plus toucher au ballon sous peine de commettre une reprise de dribble. Donc il fait un écran pour que Metson Nambaye puisse le récupérer.
Ouh, il y a Nambaye qui joue physique. Hein. Soit le Gandhi pour l'instant.
Gandhi à 3 points évident. Oh, la
qu'est-ce qu'elle fait mal
pour Gandhi, lui qui avait quasiment rien mis à 3 points cette saison dans cette conférence Nil et qui va sortir peut-être une action à 4 points.
Oh, il y a plusieurs fautes d'ailleurs sur cette action-là.
Il y a rien à dire.
Et il méritait de tomber Gandhi parce qu'il y avait du contact.
Non, bah, il a vraiment voulu que Gandhi tombe.
On a le jeune Stephen Dawit qui vient de monter de l'académie, du programme BAL Elevate. La question c'est est-ce que du côté de Bangui, est-ce qu'on a assez de joueurs offensifs pour remonter cette différence qui commence à être quand même.
Je crois qu'il faut raison. Il y a Darlan et il y a Wiltshire qu'il faut remettre sur le terrain.
Ouais, je pense aussi parce qu'on est obligé de jouer le goal average là, pour l'instant.
Gardner. Guizaoui. Gardner à nouveau. Est-ce qu'il continue d'attaquer les Égyptiens? Billy Kamayenge. Et pas mal avec la planque. Je l'ai touché sur le plexiglas pour Billy Kamayenge.
Oh, attention, le petit presse El Gendi avec cette passe au-dessus de la tête.
Alors on sait qu'évidemment, avec la disqualification du Dynamo, ça a tout changé, la façon de qualifier les équipes, etc. Moi j'espère juste que le staff de Bangui est au courant de cette règle-là.
Oui, je comprends, c'est exactement ce que je pensais. Quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain par rapport justement à cette fameuse ligne des 16 points, cet objectif des 16 points, on n'en a pas certains qui aient reçu l'information. Et d'ailleurs, j'ai avoué que c'est une règle. FIBA. Et c'est assez difficile pour toutes les autres équipes parce que Bangui avait vraiment fait le boulot par rapport à une équipe de Cape Town qui finalement a été sortie avec une victoire.
Il y a une scène assez intéressante qui vient de se passer sur le banc de l'autre président carrément de Bangui. On a le joueur du programme Biel Levet, Abouléla, qui a voulu demander à son coach qu'il pouvait rentrer parce qu'il n'est toujours pas rentré dans cette compétition alors qu'on va rentrer du côté Bangui. Il est venu lui dire bah mais moi j'ai toujours pas joué, il y a même Ndawi qui est là et on lui a dit ben non nous on joue le score etc.
D'accord.
Et ça doit être très frustrant évidemment pour lui. On le voit évidemment sur le banc avec le regard noir, ça doit pas être évident.
Bah il est en Égypte aussi hein, ce jeune homme il est en Égypte, il est à la maison.
Et il n'a pas joué une seule seconde, hein. Il n'est pas rentré du tout des 5 premiers matchs dans celui-là, probablement qu'il ne rentrera pas non plus.
Bah, les couches ne se font pas que des amis hein, sur le banc.
Non, vous n'êtes pas payé pour être ami avec vos joueurs. Vous êtes payé pour gagner des matchs.
C'est pas le seul, hein, Boyella, parce qu'on sait par exemple que Curtis Hollis, l'américain, cette équipe de Bangui, on n'est même plus sur le banc. On se demandait même où il était passé. Il était là en première mi-temps, il ne l'est pas en deuxième. Évidemment, ce sont tous des compétiteurs. Ils veulent jouer toutes les minutes, évidemment.
On voit Gozor qui s'est dirigé vers le vestiaire et qui n'en est pas encore revenu.
Évidemment. Saran a 3 points. Ouh, aïe, l'avion qu'il envoie. Le ballon est sauvé. Kamayenge. Nambaï.
Contre-attaque.
Et 2 points presque faciles pour Bangui.
Ça ramène le groupe à 20 points. On est quand même là. On est quand même à 2 paniers, messieurs.
En tout cas, Kamayenge fait du bien, en termes de rythme, en termes d'envie, il fait du bien.
Gardner. Aïe. Et là, par contre, celui-ci, il fait très, très, très mal. Alors que Bangui revenait. Namba, il y a 3 points à nouveau. Mais là, on en voit vraiment les derniers shoots.
Ouais, exactement.
Ndawi, le ballon va être perdu, rendu à Bangui. Allez, il faut pousser encore pour Bangui. Kamayenge a 3 points. C'est contré malheureusement. Gardner. Et le ballon est pour Bangui dans cette dernière minute de cette conférence Nil.
Allez, malheureusement à moins 23. Je pense que ça commence à s'évaporer petit à petit.
Et il y aura un temps mort en tout cas pour faire un petit peu durer le plaisir cette conférence Nil qui prendra fin ensuite. Je crois qu'il va y avoir une révision vidéo par contre pour les arbitres pour savoir à qui appartient ce ballon. Oh, il y aura des regrets j'imagine du côté de Bangui si jamais la barre de ses 16 points n'est pas atteinte. Et oui, c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Ils paieront cher, malheureusement, leur tout premier match qui avait été raté, la défaite contre Al Ahly de Libye, ce match inaugural de Bangui, qui ensuite, sur les 4 autres matchs, aura été beaucoup plus consistant, avec 3 victoires et cette défaite contre Al Ahly d'Égypte, mais de seulement 6 longueurs.
Écoutez, ce premier match est souvent le plus difficile, où vous allez prendre du rythme. On savait que cette équipe avait déjà changé de forme plusieurs fois. Un nouveau coach venait d'être parachuté, qui a fait un excellent boulot d'ailleurs. Et voilà, vous rentrez dans une défaite après le groupe, après le rythme. Il nous a fait énormément plaisir d'ailleurs. Encore une fois, c'est des règles qui nous... Voilà, le fait qu'une équipe n'ait pas joué ses matchs fait que... Malheureusement, les autres équipes risquent de payer le prix quelque part parce que si on regarde vraiment l'effort qu'ils ont fait, ils ont été chercher des victoires, ils ont été présents, ils vont faire du beau basketball et c'est bien dommage.
Bien sûr, parce que 2 des 3 victoires de Bangui sont contre les City Oilers et c'était des belles victoires. Mais malheureusement, dans le calcul pour qualifier les 2 meilleurs 3e, ces 2 victoires contre les City Oilers ne compteront pas et forcément, ça changera évidemment beaucoup de choses. Le ballon va être rendu à Al Ahly en tout cas, je crois.
Non, ballon BSC.
Ballon BSC.
Ouais.
Voilà, nous sommes dans l'un des derniers temps morts de cette fin de match entre Bangui Sporting Club et la République Centrafricaine. Il y a la Ligue d'Égypte qui mène donc 94 à 71. Bangui qui devait réduire l'écart, bien sûr, des différences d'au moins 16 points pour espérer une troisième place hypothétique mais qualificative peut-être pour les playoffs. Ça ne sera pas le cas visiblement au moment même où le jeu repart du côté du Caire.
Et Kabayoug qui a glissé. 40 secondes.
Ouais, pas grand chose d'ouvert. La défense des Égyptiens est bonne, regardez.
Gaïfei. Il y aura une faute par contre. À 30 secondes de la fin. Plus 23, de toute façon, c'est cuit. Kamalengue, Jim Rabai, 22 secondes, donc 3 sur la possession, Namba, il y a 2 points, Jim Rabai,
légèrement trop tard,
fin de la possession, panier qui ne sera pas accordé. Remettre évidemment le bon chrono. Dernière possession de cette conférence. Et on va en rester là. Al Ahly d'Égypte remporte donc sa propre conférence dans sa salle, sur son terrain, en remportant cette rencontre 94-71. Al Ahly de Libye va donc terminer deuxième et être officiellement qualifié pour les playoffs. Pour Bangui, malheureusement, il va falloir faire des comptes d'apothicaire. Cette défaite, du coup, permet normalement aux Tigers d'être directement qualifiés en étant d'ores et déjà l'un des deux meilleurs troisièmes. Pour Bangui, il faudra attendre que la conférence Arasteur soit jouée. Ça commencera dans une semaine maintenant. On sera déjà à Dakar d'ici 6 jours maintenant. Mais Al Ahly aura quand même mérité cette victoire dans cette conférence. 5 victoires. Et cette défaite contre les City Oilers, qui aura été presque une anomalie, évidemment. Il y aura une classe d'écart, décidément, aujourd'hui, entre les deux équipes. Thierry Darlan sera passé à côté de son match avec seulement 15 points. Rolly Foula, seulement 6. Il aura de très très loin fait son pire match, évidemment. Très très peu d'adresse pour lui aujourd'hui. Elle n'a pas à rougir, en tout cas, cette équipe de Bangui, même si elle s'est bien battue. On rappelle qu'il manquait Noah Buzor, il manquait Gana Pamo. Et qu'en plus de ça, il y a eu des petits remous par rapport au recrutement. On le rappelle, on n'en parlera pas ce soir, évidemment, les meilleurs marqueurs dans cette rencontre, avec Wolfsider qui aura fait une bonne première mi-temps. Mais regardez surtout les différents pourcentages, seulement 4 sur 19 pour Thierry Darlan. Et nous, on va écouter Prince Ali au micro de Jack. Le job a été fait, vous êtes premier. C'est mon première fois ici en Égypte. C'est le premier match avec l'équipe. On a tous joué ensemble, on a fait face à l'adversité. Mais c'est incroyable en tout cas de terminer premier. Comment est-ce que vous évaluez votre propre performance à la BL? Je crois que j'ai monté en puissance à chaque match. On a parfois un petit peu été brouillon, mais on a quand même bien progressé ensuite. Merci et bien sûr on se verra au Rwanda. Prince Ali évidemment avec cette équipe d'Al Ahly Malik qui seront au rendez-vous des playoffs. On peut pas être satisfait quand on est à Al Ahly. Pour l'instant, on est content, d'accord, mais le job il est fait. Maintenant, on se projette sur la réelle partie de la saison intéressante, les playoffs.
Voilà, c'est la fin de ce dernier match de la conférence du Nil entre Al Ahly d'Égypte, vainqueur 94 à 71 pour les Centrafricains. Check très rapidement, Al Ahly sort vainqueur, donc champion de sa conférence du Nil.
En tout cas, et c'était attendu. Les résultats de la journée avec bien sûr les deux victoires tout simplement, des deux Al Ahly. Les City Oilers de l'Ouganda.
Vas-y, Cheikh, on t'entend, vas-y.
Ouais, je dis, bon, ils ont, le maire a gagné, Yacouba. Nous avons tous vu que le maire a gagné. Cette équipe Al Ahly est très expérimentée, Yacouba, avec l'ajout de ses joueurs, comme tu l'as vient de juste dire. Et ils ont été en mesure de remplacer Nouni, qui a donné vraiment un autre effort, une autre couleur de l'équipe. Yacouba, et puis l'équipe Bangui Sport, Yacouba, a très bien joué aussi. Et nous avons vu une défaite de l'équipe des deux équipes, malgré qu'ils ont fini avec plus de 20 points par match dans ce match-là, Yacouba.
Bangui Sporting Club, donc, qui finit troisième de cette conférence du Nil, qui malheureusement n'a pas pu réduire l'écart de points avec Al Ahly de 16, ce qui lui permettrait, par exemple, de damer le pion à Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, du côté de Pretoria, qui avait aussi fini meilleur, qui avait fini troisième, et donc, visiblement, ce sont les Sud-Africains qui risquent d'arracher l'une de ses meilleures places de troisième pour se qualifier du côté de Kigali, donc pour les playoffs. C'est la fin de cette conférence du Nil. Cheikh, en termes de niveau, de compétition, est-ce que tu as senti le niveau monter un peu d'un cran dans cette conférence du Nil?
Absolument, Yacouba. Nous avons vu que toutes les équipes peuvent gagner. Même il n'y a pas une équipe qui n'a pas gagné un gros match comme on voyait, c'est les Oilers qui sont derrière. C'est un groupe, mais ils ont gagné Al Ahly, Yacouba. Ça montre qu'il y a une compétition de haut niveau. Moi, quand même, j'ai admiré beaucoup les conférences Nil de l'année passée, de cette année que l'année passée. Nous avons vu beaucoup de nouveaux talents, de nouvelles équipes comme Bangui et puis Al Ahly,
de la Libye.
Donc, ça veut dire que Yacouba, il y a une promesse du basket africain que j'ai vue, mais l'expérience apporte beaucoup. Tout ce qui a manqué quand même, cette équipe de Bangui, ils jouent avec une équipe qui est très expérimentée. Ils ont un coach qui coach cette équipe d'Yacouba derrière depuis les Amalek. C'est lui qui retourne chaque fois et qui sait très bien faire des décisions au moment des matchs nécessaires, Yacouba, pour vraiment emporter. Quand il avait mis les bancs sur le terrain, Yacouba, si les bancs encaissaient 6 points seulement, il allait faire sortir les bancs. Mais il a vu que les équipes titulaires de Bangui avaient du mal vraiment à marquer sur les bancs. Donc, il les a laissés jouer. Et donc, c'était l'équipe coach de Bangui qui devait voir que nous avons une équipe de bancs sur le terrain. Il faut les damer, il faut marquer plus de points pour qu'on puisse vraiment prendre l'avantage sur ce moment. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est ça qui a fait que les titulaires se sont reposés. À troisième quart-temps, ils sont venus vraiment s'imposer. Et ça a été une difficulté pour l'équipe Bangui de vraiment maintenir ou bien de combattre les scores qui sont sur le scoreboard, Yacouba. Moi, quand même, je pense que les deux équipes ont très bien mis le maillot, Yacouba. On va s'attendre au contrat de Sahara maintenant, voir comment ça va donner au Sénégal, comme ils ont bien dit, dans quelques jours.
Et justement, la conférence du Sahara qui commence un match donc la semaine prochaine. En tout cas, pour le moment, au classement, et bien dans cette conférence du Nil, c'est bien à la ligne Sporting Club donc, qui finit premier, je le disais, avec 5 victoires sur 6 matchs. Le seul match qu'Al Ahly a perdu, c'était face au dernier, City Oilers, chose assez bizarre quand même. Et donc, l'équipe libyenne d'Al Ahly Sporting Club se positionne à la deuxième place avec 6 matchs, 3 victoires. Malheureusement, Bangui Sporting Club, c'est aussi 6 matchs, 3 victoires. Mais le goal average est là, énorme pour les Libyens qui donc vont se qualifier directement pour les playoffs prévus à Kigali le mois prochain, du 24 mai, donc je le disais, au 1er juin prochain. Cheikh, tu parlais de conférence Sahara, ça sera du côté de la Dakar Arena, et dans cette conférence Sahara, on retrouve le deuxième champion, bien sûr, l'US Monastir, le tout premier champion d'ailleurs, l'US Monastir de la Tunisie, l'AS Douane du Sénégal, Rivers Hoopers du Nigeria, et puis on a APR du Rwanda. Les matchs vont commencer à partir du 4 mai prochain et vont prendre fin le 12 mai donc, et on saura qui sont ceux qui vont se qualifier pour les playoffs prévus du côté de Kigali. Cheikh, on a un peu quand même du mal pour des garçons comme Thierry Darlan qui n'était pas très en forme ce soir, tout comme Foula Roli qui apportait beaucoup à cette équipe centrafricaine.
Absolument, Yacouba. Le moment où il s'est retrouvé, c'était un peu trop tard pour l'équipe de vraiment faire des écarts, parce qu'à vous rappeler que Yacouba jouait contre une équipe championne de l'année passée et qui ont une très bonne expérience Bon, moi quand même, je pense que Yakuba, les joueurs qu'ils ont joué et tous, ils ont moué les maillots pour une première fois. Yakuba, c'est pas mal de se présenter comme ça au haut niveau. Mais le Conference Sahara, Yakuba, en niveau de play-off, c'est les équipes de Conference Sahara qui vont avoir beaucoup de chances, Yakuba, de vraiment remporter cette année à Kigali, Rwanda, parce que ça va être au moins une semaine après les Conference Sahara qui vont se rentrer, ils vont se trouver à Kigali. Ça veut dire que les joueurs seront sur les jambes. Les gens qui ont fait la première conférence Kalahari et Nil, et puis ils vont être en train d'attendre les résultats de cette conférence Sahara qui vont être sur les jambes. On va voir quand même US Monastir là-bas, Yakubu. Je te rappelle que l'année passée, et tout le monde avait peur de cette équipe, mais ils ne se sont pas allés loin dans les conférences l'année passée. Mais espérons bien que nous allons voir une différente équipe au Mounes Monastir. Je suis sûr qu'ils vont bien se préparer. Nous avons aussi Kigali Rwanda qui veut vraiment se qualifier aussi, Yakuba, parce qu'il joue ses œufs à la playoff. Donc ça va être une poule de compétition très haute, très élevée, Yakuba. Le Sénégal aussi, nous savons très bien que le Sénégal aussi est là depuis l'année passée, Yakuba. Donc ça va être une conférence très très intéressant de voir qui va se qualifier aux conférences Sahara pour se rendre à Kigali, Rwanda.
On a hâte donc de savoir qui va se qualifier. Merci beaucoup, cher Thiro. On va te laisser poursuivre tranquillement ton week-end à la maison. Et puis bon, voilà, ça a été un plaisir pour nous avec Sims Lumami ici de vous partager ces moments de basketball avec vous. Mais ne quittez pas, ne décrochez pas. Les 30 prochaines minutes seront des moments de sport. Vous allez pouvoir écouter Alphonse Bilé, le secrétaire général de FIBA Afrique, qui a été interrogé par Cheikh Thiro. Vous allez aussi suivre Willem Diakop, expert en économie du sport, mais aussi Angélique Ouédraogo, qui est une nageuse professionnelle burkinabé. Sims, on y va tout de suite.
Souhaitons avoir une relation avec la NBA. Merci beaucoup. Bon, je suis Dr Alphonse Bilé, secrétaire général de FIBA Afrique. Pour parler de la balle et de la FIBA Afrique, ça fait plusieurs années, nous souhaitons avoir une relation avec la NBA. C'est le basket africain. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des joueurs qui jouent à NBA, etc., vu leur gabarit, leur morphologie, leur génotype, ce sont quand même des Africains. Donc la manière dont ils jouent, pourquoi on ne pourrait pas jouer pareil? Et on s'est rendu compte que nos équipes africaines, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Angola, etc., on n'arrivait pas à percer au niveau international. Donc on a dit qu'il serait peut-être intéressant au niveau des clubs champions de l'Afrique, le champion de chaque pays en Afrique, nous organisons une compétition qu'on appelait l'Afro Club. Est-ce que ce n'était pas intéressant de pouvoir avoir un lien avec la NBA, essayer de construire cette histoire de club? Parce que pour les équipes nationales, c'est plus compliqué. Donc nous avons pu rencontrer le patron de la NBA, Adam Silver, Tatum et tous les autres, avec Kim Bohuni, avec Amadou, etc., qui était en ce moment, Amadou, qui était, je dirais, le président de NBA Africa, responsable de NBA Africa en Afrique du Sud. Et donc nous avons pu voir le patron de la NBA, David Adam Silver, qui nous a laissé dire que bon, pourquoi pas, ça pourrait être une idée intéressante, il fallait qu'on la mûrisse. Et de fil en aiguille, nous avons travaillé sur 2 ans, tranquillement, pour voir comment le club champion, la compétition club champion africaine, pouvait devenir une compétition en association avec la NBA. Donc c'est une structure où nous faisons, nous, la première partie de la compétition, ce que nous appelons la Road to BAL, qui fait que d'abord tous les pays africains peuvent jouer. On a entre 30 et 40 pays qui jouent au niveau des clubs. Et ensuite, nous prenons 16, que nous appelons l'Elite 16, et les 16, nous retirons au total 6. Les 6 équipes viennent compléter ce que la NBA nous a demandé. Elle voulait 6 pays fixes. Pas des franchises, mais 6 pays fixes. Donc ces 6 pays fixes, on vient compléter pour faire les 12 équipes. Et ça, on appelle cette compétition maintenant, avec les 12 équipes, la BAL. Et cette BAL, toute la partie, je dirais, promotion, marketing, etc., etc., c'est pour la NBA. Et la partie compétition, en tant que règlement, les arbitres, les commissaires, etc., c'est FIBA Afrique. Et ce sont les règlements de la FIBA qu'on utilise dans cette compétition. Parce qu'après tout, c'est une compétition africaine avec des joueurs africains. Il y a quelques joueurs américains, etc. Mais c'est plus une compétition africaine. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui jouent pendant l'afro-basket, etc. Donc nous appliquons, la NBA a accepté, nous appliquons le règlement de la FIBA pendant cette compétition avec des arbitres africains et quelques arbitres de la J-League. Voilà un peu l'histoire. Ça nous a permis de créer donc une bonne famille. Nous constatons que ça nous va au niveau continent africain. Ça permet la révélation de beaucoup de joueurs. Ça permet la promotion de ce basket africain, pas seulement la BL, mais la promotion de ce basket africain. Une visibilité vraiment intéressante. C'est ce que nous recherchons.
Bonjour ou bonsoir, c'est Selon. Merci de nous rejoindre ici à la Voix de l'Amérique, à Washington DC. Nous recevons pour vous aujourd'hui, bien sûr, M. Will Biakop. Il est expert en économie du sport. Il est le président de l'African Sports and Creative Institute. J'y arrive. M. Will Biakop, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, enchanté.
Alors, vous êtes auteur, bien sûr, d'un document qu'on va parcourir ensemble tout à l'heure, même si 15 minutes, c'est très peu. Dites-nous déjà, si vous devez vous présenter à ceux qui nous suivent, qui êtes-vous ?
Écoutez, je suis un enfant de l'Afrique, je suis un enfant de Yaoundé, Cameroun, surtout un panafricain finalement. J'ai eu la chance de jouer un peu au basket, de faire du sport de haut niveau dans ma jeunesse, et puis après de bifurquer sur le côté éducation. J'ai pu aller à l'école en Europe, en France et puis en Angleterre. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que le sport m'a donné beaucoup de chance en termes d'opportunités, mais également des valeurs que j'ai pu ensuite retransposer dans le monde professionnel, qui a provoqué une certaine forme de réussite, j'ai envie de dire. Et pour aller un peu plus, pardonnez-moi, pour terminer sur le parcours professionnel, c'est près de 10 ans au niveau de la NBA, où j'étais en charge du business développement pour NBA Africa. Aujourd'hui, je mène avec l'équipe le développement de l'écosystème du sport et des industries culturelles et créatives en Afrique avec la SCI.
Alors justement, quand vous parlez d'industrie du sport en Afrique, on sait que ce n'est pas très développé sur le continent. Quel est le constat que vous faites ici et maintenant ?
Alors le constat, il est double. Je pense que la première chose, c'est que moi, je ne dis pas qu'il n'est pas développé. Je dirais qu'il est en cours de développement déjà. Il y a un énorme potentiel. Le potentiel est important. Mais ce potentiel, pour se réaliser, il y a un certain nombre de prérequis que nous devons entreprendre, aussi bien le secteur public que le secteur privé.
Quand on parle de business, vous l'avez dit, hein, vous parlez de business du sport en Afrique. Est-ce qu'il y a véritablement actuellement le sport et du business en Afrique ? Dans le
Absolument.
Bon sens, bien sûr.
Absolument, il y a du business ou de l'économie du sport en Afrique. L'économie commence à travers l'enfant ou la maman ou le papa qui ont besoin d'acheter un short ou un t-shirt pour l'enfant qui va à l'école. Donc ça, c'est déjà une transaction commerciale, c'est une valeur commerciale. Ça implique aussi bien un fournisseur qu'un client. Donc ça, c'est une valeur commerciale, c'est une valeur donc économique qu'il faut absolument rentabiliser. Et donc oui, aujourd'hui, l'économie du sport en Afrique existe. Elle est à hauteur d'environ 0,5%, donc 0,5% environ à nouveau.
C'est très peu quand même. Hein.
Absolument, c'est très peu, surtout à la lumière du formidable potentiel et du formidable marché domestique qui est en Afrique. On parle d'un marché de 1,4 milliard de gens qui ont en moyenne 19 ans.
Ouais.
Ça veut dire que c'est des gens qui sont jeunes et qui ont une propension à consommer, mais également à pratiquer du sport pendant très longtemps. Donc pour moi, tout ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que nous sommes face à un marché qui est nouveau, qui va se pérenniser, qui a un potentiel important pendant longtemps. Et c'est à nous de s'investir aussi bien au niveau public qu'au niveau du secteur privé.
Alors,
une première chose, il y a un grand élément qui différencie la CAN camerounaise de la CAN ivoirienne, c'est le Covid.
Oui, bien évidemment.
Donc ça, c'est déjà un impact majeur. Le Covid a freiné l'engouement, le Covid empêchait de vivre la CAN dans sa plénitude, aussi bien pour les Camerounais que les visiteurs. Donc ça, déjà, c'est un grand point. La deuxième chose, c'est que bien entendu, les Ivoiriens ont plus de temps pour préparer leur CAN. Donc effectivement, quand on a plus de temps pour préparer, on peut mieux faire les choses. La troisième chose, c'est qu'il y a davantage d'investissements. On parle de 1,5 milliard d'euros d'investissement. Et ces investissements, ils ont été multiples. Ils ont été au niveau des infrastructures, donc les stades, hein. En 5 villes, 6 stades, dont 2 bien sûr à Abidjan, voilà. Mais également des infrastructures routières, je pense à la côtière notamment,
justement,
qui lie Abidjan à San Pedro. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous améliorez l'expérience client, la fan expérience comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, au lieu d'aller seulement à Abidjan, ben, y a des gens qui vont vouloir aller à San Pedro, à Corogo, etc., etc., et consommer plus. Donc, la totalité, la combinaison de ces différents facteurs font que, effectivement, vous allez être en position de gagner plus d'argent.
Alors, vous l'avez dit, vous avez une expérience avec la NBA Africa. Aujourd'hui, il y a la Basketball Africa League sur le continent. Vous parlez justement d'économie du sport. On voit cette vision, bien sûr, des autorités de la NBA, qui sont à l'initiative, bien sûr, de cette Basketball Africa-là, et qui veulent faire de ce sport, le basket, quelque chose de très populaire d'abord sur le continent et de rentable. Comment vous voyez cela?
Ben, je pense que c'est formidable. C'est formidable de voir des ligues majeures, comme on les appelle, que ce soit la NBA ou autre, investir davantage sur le continent. Ça veut dire qu'ils valorisent le continent lui-même, qu'ils comprennent le potentiel économique qui réside dans le continent et comprennent que ce potentiel économique va durer pendant très très longtemps. Donc c'est absolument positif. Vous savez, quelque part, en anglais on dit blaze the trail, donc ils sont en train d'être des pionniers et de mettre les premières pierres en avant pour les autres qui vont suivre. Donc il faut leur tirer le chapeau, il faut leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent. Et c'est très positif pour le continent d'un point de vue symbolique, mais également d'un point de vue économique, puisque chaque événement qu'ils organisent génère du revenu.
Alors, dernière question avant de revenir, bien sûr, à votre livre. On le voit, hein, quand on parle des noms comme vous l'évoquez, d'ailleurs, on voit le visage de Didier Drogba sur votre bouquin. Mm-hmm. Il y a Samuel Eto'o, fils. Il y a Kipchoge du Kenya, par exemple, en athlétisme et autres. Ce sont des figures ou encore des noms, pour moi, qui ne sont pas autant valorisés qu'un Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, en tout cas sur le continent africain. On voit que souvent ils ont du mal à partir avec les acteurs du football local, parlant bien sûr du Cameroun avec Eto'o et tous les problèmes qui s'entourent. Didier Drogba qui a essayé par exemple la présidence de la Fédération Ivoirienne de football qui n'est pas parvenue. Pourquoi on n'arrive pas à faire de ces noms-là de véritables marques déposées sur le continent, comparativement à ce qui se passe ailleurs?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. La première chose, c'est qu'il faut saluer le fait que ces noms sont des noms et des marques mondiales.
Mondialement connus, oui.
C'est-à-dire que moi, vous savez, c'est drôle, je voyais l'autre jour une émission où le président Ouattara parlait. Il dit qu'il est parti visiter la reine-mère en Angleterre. Et puis bon, elle rencontre plein de présidents. Elle dit bonjour président de machin, président de truc. Et elle arrive à président Ouattara, vous êtes donc de Côte d'Ivoire.
Le pays des Drogba.
Voilà. Donc elle répond, mais Didier Drogba. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs ont dépassé le cadre d'être juste des joueurs. Ce sont des marques, donc des marques commerciales. Elles valent de l'argent, des sponsors sont prêts à payer pour elles. Mais c'est également des ambassadeurs. Et je crois que ce côté, ce qu'on appelle global influence, donc l'influence globale, et même la diplomatie sportive, c'est quelque chose que nous devons absolument prendre en compte en Afrique. Il faut se rendre compte que tous nos talents, qu'ils soient dans le sport, la culture, les arts, etc., la science, la technologie, tout ça, ce sont des ambassadeurs de nos pays qui peuvent faire rayonner nos pays au-delà des frontières nationales, régionales ou continentales. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut les célébrer. Il faut les célébrer beaucoup plus qu'on
ne le fait pas assez sur le continent.
Exactement.
À mon même avis.
Absolument, vous avez absolument raison. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, en Occident ou ailleurs, on va célébrer certains athlètes comme il se doit, parce qu'on reconnaît la valeur, le travail, etc., tout ce qu'ils réalisent. C'est vrai que sur le continent, c'est étonnant qu'on ne célèbre pas assez.
Quand on parle de continent, les Camerounais vont penser qu'on ne parle que de leur pays. On parle du continent africain.
Moi, je parle du continent africain. Moi, je parle en tout cas du continent africain. Et c'est vrai que c'est presque antinomique avec notre identité. Ouais. Parce que l'ADN africaine, vous savez, on parle de Ubuntu, par exemple, c'est célébré l'autre. Je suis parce que vous êtes.
Bien évidemment.
Vous voyez? Donc ça veut dire que je ne peux me réaliser qu'à travers vous, qu'à travers ma communauté, où que je sois à New York, à Pékin, ou encore à Londres, c'est l'Afrique que je représente partout où je rentre. Vous voyez? Et c'est vrai que ça, c'est, comme je disais, c'est contradictoire avec notre ADN, notre identité africaine, qu'on ait ce manque de célébration de l'autre. Et c'est quelque chose, je pense que la jeunesse qui arrive est en train de changer, en tout cas je l'espère.
Alors, on en vient à votre livre, Industrie du sport en Afrique, déjà. Mm-hmm. Qu'est-ce qui inspire l'écriture de ce livre-là et qu'est-ce que vous visez? Deux questions en même temps.
Donc, il m'a semblé important de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir chercher, trouver de l'information. Parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data. On a besoin de comprendre qui consomme le sport, comment il le consomme, où, quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés, quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé? Vous voyez, donc c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. Donc c'est comme ça que nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des superstars comme je les appelle, ou nos grands du continent. Je pense notamment à Makhtar Diop, qui est le patron de la SFI, ou Société Financière Internationale, ou AFC en anglais. Je pense à Tidiane Thiam, je pense également à Didier Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités, et il y en a beaucoup.
Alors, justement, pour quelqu'un qui veut parcourir ce livre et qui a envie de l'acheter, vous l'avez mentionné, hein, vous avez recueilli pas mal de données avec ces hautes personnalités, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur?
Ben, on trouve 458 pages de contenu, c'est 10 chapitres, 8 case studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines.
Exemples des success stories?
Absolument.
De qui par exemple dans le livre?
Ben, je pense par exemple à la demoiselle qui est sur la couverture, qui s'appelle...
Vous pouvez présenter, hein, si vous voulez.
Ouais, bien sûr, ben voilà, elle est là, c'est pour les producteurs, je laisse faire le zoom, mais une des success stories, c'est Navalayo Osambo qui a créé sa marque dans le retail, donc sa marque de sport qui s'appelle Enda Athletic, parce qu'elle elle est kenyane, elle voit les grands kenyans courir et à chaque fois qu'ils portent des marques, c'est pas des marques kenyanes. Donc elle a dit, ben voilà, moi je veux créer ma marque, et c'est une super success story parce que sa part de marché la plus grande est actuellement aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est un joli exemple. Un exemple aussi à l'international peut-être, c'est Nike, donc la marque américaine, qui a fait une de ses plus grosses ventes de l'histoire des maillots nationaux avec l'équipe du Nigeria. Parce qu'elle a changé le design, elle a mis en valeur les traditions, les couleurs, les motifs traditionnels du Nigeria. Donc les ventes ont été extraordinaires. Donc voilà quelques exemples qu'on met en avant. Ensuite, dans le chapitre 4, c'est là où on va sous le baobab, vous savez la tradition en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest.
À la recherche de la sagesse.
Voilà. Et donc, dans la recherche de la sagesse, on a 10 personnalités du continent qui nous parlent de différents aspects de l'économie. Donc, l'investissement, donc je parlais de Tidiane Thiam tout à l'heure. Les athlètes, donc le développement de talent avec Didier Drogba. Mais également, la gouvernance, les politiques publiques. Je pense à Vera Songwe qui a mené pendant des années UNECA. Donc, on a la chance d'avoir différentes personnalités. On parle également d'éducation. Avec Hicham El Abti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière et viennent avec des propositions innovantes pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique.
Vous avez parlé de gouvernance, ce mot m'a frappé parce que dans la gouvernance justement du sport sur le continent, tout n'est pas rose, il y a des petits problèmes presque partout, surtout dans le football. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces acteurs qui disent militer pour le développement du football sur le continent, mais qui en réalité aussi créent pas mal de soucis à ce football africain-là?
Alors, premièrement, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, la gouvernance est un sujet majeur. Il faut absolument que la gouvernance soit booster, c'est le sujet d'un de nos chapitres. La gouvernance doit être un booster de développement, notamment économique. Pour ce faire, on propose, nous, de premièrement développer les compétences. Vous voyez, il faut absolument que les gouvernants et des compétences, sachent de quoi ils parlent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien entendu éviter les conflits d'intérêts. La troisième, c'est peut-être penser à professionnaliser certains de ces jobs. Et puis la quatrième, vous savez, dans le basket, on dit il faut être true to the game, il faut être authentique avec le jeu et avec vous-même. Et moi, j'ai envie de suggérer de revoir nos sociétés traditionnelles africaines. Comment on faisait pour gouverner nos sociétés? Comment faisions-t-on pour gouverner nos cités? Vous voyez, peut-être qu'il faut repartir là-dedans, regarder comment on faisait par le passé, le partage des tâches, le partage des responsabilités, les sanctions aussi. Parce que lorsque quelqu'un ne respecte pas son engagement, il doit être sanctionné.
Il doit être sanctionné.
Ouais, il peut pas rester impuni. Donc tout ça, ce sont des traditions et des valeurs africaines qui, me semble, seraient vraiment propices à implémenter sur la partie gouvernance du sport.
Alors, si vous avez un conseil à donner à ce jeune garçon, peut-être qui court au quartier, qui rêve de devenir un Eliud Kipchoge du Kenya, ou encore à cette petite fille qui joue au football dans le quartier, qui pense à Samuel Etoufis, ou encore à Gaël Nganamout, j'espère que je prononce bien, je ne suis pas camerounais, excusez-moi. Alors, si vous avez un conseil justement à donner à tous ces enfants-là qui rêvent de faire carrière dans le sport, de devenir quelqu'un dans le sport, comme on le dit, c'est quel conseil vous donnez?
La première chose, c'est qu'il faut rêver et il faut rêver grand. Rêver n'a aucune limite, donc rêver et rêver grand. Rêver d'être le meilleur dans ce que vous pouvez faire. Pour ça, il faut faire honneur à son rêve. Donc si je rêve de grand, il va falloir que je travaille grand également. Donc il faut mettre l'effort nécessaire à tous les niveaux, pas seulement au niveau performance, mais tout ce qu'il y a autour de la performance.
C'est surtout souvent l'entourage justement de ces athlètes-là qui crée aussi pas mal de soucis.
Oui, effectivement, il faut absolument qu'il soit bien entouré. Après, il faut aussi avoir, dans un deuxième temps, pouvoir se dire les choses, être honnête avec soi-même. Réaliser un point, peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être qu'en fait, je ne pourrais pas devenir footballeur professionnel, basketteur professionnel ou autre. Mais par contre, vous savez, il y a une centaine de jobs qui sont disponibles dans l'écosystème. Et ces jobs-là, ils sont disponibles.
Ah oui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que je ne peux pas être professionnel du football. Mais peut-être que je peux être un marketeur du foot. Je peux faire du marketing. Peut-être que je peux être comme Yacouba. Je peux être un journaliste.
Hein? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Peut-être que je peux être dans l'événementiel. Peut-être que je peux être dans le droit, etc. etc. Donc, à tous les jeunes, il faut absolument continuer à rêver. Il faut travailler et être honnête avec soi-même à la hauteur de ses rêves. Et bien entendu, il faut tout faire pour réaliser ses rêves.
Justement, le livre, tous les conseils qu'il donne, vous allez les trouver dans le livre. Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre-là? Je rappelle que là, c'est en anglais, mais il y a une version française également.
Absolument, la version française s'appelle « L'économie du sport en Afrique ». Elle est disponible sur notre website African, avec un N, africanSCI.com. Elle est également sur Amazon, sur la FNAC, etc., etc. Je suis sûr que sur Google, vous allez trouver tout ça. Et la version anglaise, elle est là, African Sports Industry. Deux versions différentes, avec un upgrade ici. On a beaucoup ramené de nouveaux contenus. On a interviewé de nouvelles personnes. On a fait en sorte que vraiment, les gens puissent trouver des sources, des outils pour pouvoir s'équiper et attaquer ce marché fantastique qu'est l'économie du sport.
Voilà. Des belles paroles, je n'aurais plus rien à dire. On va s'arrêter ici. Merci en tout cas, Will Mbiakop. Je rappelle que vous êtes expert en économie du sport. Vous êtes également le président exécutif de l'African Sports and Creative Institute. Vous étiez dans les studios de la Voix de l'Amérique. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir accueilli.
Bonne suite à vous.
Mon animal préféré, c'est le cheval. Mon nom, c'est Ouedraogo, qui veut dire cheval mâle. Les chevaux sont forts, rapides, robustes. Et moi, je vois ma personnalité, je me dis, voilà, je suis un cheval. J'ai toujours aimé le bleu, le ciel, l'eau, la piscine est toujours bleue. Ça a commencé au primaire quand j'avais 6 ans. Je pense que j'ai appris très vite, après quelques mois, 2 ou 3 ans plus tard. J'ai participé au championnat national et c'est là que j'ai eu le 2e prix et un 1er prix en brasse. Et après ça, je compétissais au championnat national chaque année. Il fut un moment où il n'y avait plus de nageuses dans ma catégorie. Je dirais, des cadettes, juniors et seniors, il n'y avait pas vraiment de filles. Donc, je nageais avec les garçons au niveau du championnat national. Quand j'arrive à la compétition, les yeux sur moi, la voilà encore. J'ai même eu une discussion avec une personne qui a dit « Est-ce que tu étais obligée d'aller aussi vite ?» Et je lui ai juste dit que, en réalité, je nage contre mon temps. Donc, l'année qui suivait, j'ai compétit encore, j'ai gagné. Et c'est là que l'ancien président de la Fédération de natation, M. Christian Tamini, il m'a dit « Ben, Angélique, tu es la plus rapide, donc on t'amène au championnat du monde en Italie, 2009. » Et c'est là que tout a commencé. La natation est difficile, surtout au Burkina. Déjà, l'accès à l'eau, c'est considéré comme un privilège. Ça, c'est un. Mais pour les femmes, il y a la question des cheveux, la coiffure. Il y a aussi le développement physique, les épaules larges, les muscles qui découragent certaines filles. Au début, la famille m'a vraiment soutenue. En 2012, j'ai eu une bourse de la solidarité olympique. Je m'entraînais au Burkina et j'avais une aide financière. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et je suis venue aux États-Unis en 2016. J'avais accès à des infrastructures. Et aujourd'hui, je suis à Oklahoma où j'ai une très bonne équipe avec des coachs.
Angélique est un grand trainer. She spends as much time in the gym as she spends in the pool, and she is really in good fitness right now.
Angélique is a friend, but a friend who sometimes gets on my nerves, only because she likes everything in its place. She likes it to be a certain way, and I understand that, and I kind of have to adapt to that. But besides the pain, she's an amazing person. I've had the opportunity to get to know her, get to love her as a sister, and I hope everyone has an Angélique in their life.
Lately, I've been trying to, you know, use my left as much as possible.
Yeah. Important to get those great big layers taken care of first.
Yeah.
And then find.
Les Jeux Olympiques, c'est le plus grand objectif de tout nageur ou tout athlète. Arriver là-bas, c'est le sommet. Avoir une médaille là-bas, c'est le rêve. Tout ce que je voulais, c'est rendre le peuple burkinabé et mon pays fier de moi.
Au jeu de Londres, j'ai beaucoup appris. Les années qui suivaient, je me suis beaucoup entraînée et j'ai commencé à réduire mon temps. Chaque année, je réduisais mon temps. Je suis arrivée à Londres, j'ai battu mon record et actuellement, j'ai battu le record du Burkina. Je suis descendue à 29 et après ça, j'ai continué à m'entraîner. Et on est arrivé à Tokyo, où j'ai encore battu le record du Burkina.
I'm really excited to see how she does in the breaststroke because it's done so much better. She's really been working hard on it.
Go! Go!
Good morning.
So this weekend,
when I look at her, I see strength in a woman. And so when you have the combination of that strength showing up both in intelligence and in your athletic ability, it's great.
Angelica, she is kind of determined, self-learner. She takes initiative by herself, so I don't have to tell her every step.
I just hope that she's able to slow down and actually enjoy her life, not be so stressed out all the time. It's okay to make mistakes. It's okay to not finish at your specific deadline in your head. Just kind of have her slow down and enjoy the life, because she's built a great life for herself.
Sans le sport, je ne serais pas ici. Le sport m'a formé mentalement. Mon objectif sur le plan scolaire, c'est de finir mon doctorat en Biosystems Engineering en 2023. Sur le plan sportif, c'est Paris 2024. Sur le calendrier, je vais m'entraîner pour pouvoir me qualifier.